Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je sais pas, est-ce que vous sentez là, dans l'air, l'esprit de Noël qui commence à planer, à flotter autour de vous? Alors évidemment, je parle pas de cette odeur de vin chaud un peu acide et de saucisse brûlée, ça c'est Simon. Mais je vous parle de l'esprit de Noël qui commence justement à flotter dans l'air, celui de la joie d'offrir, du plaisir de recevoir, celui qui vous donne envie de chanter en parcourant les petits cabanons à bretzel des marchés de Noël, emmitouflés dans votre grosse écharpe entre les stands de saucissons au Beaufort et les petits gâteaux craquants à la cannelle. Vous le sentez, vous, ce petit grog fumant bien chaud qui vous réchauffe les mitaines, qui vous donne envie d'aimer la terre entière? Non? Non mais là, je pense que c'est le sirop pour la toux, j'en ai pris beaucoup, je suis dans un état, je me suis pris des perches cet après-midi. Tout ça réalisé sans trucage.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Bon, salut les amis.
Hello.
Bon, ça va pas fort visiblement.
Je suis en pleine forme. Mais il y a des saucisses grillées ou pas?
Elles arrivent.
Non, c'est mais l'odeur.
Ah non, ça c'est Simon.
C'est bon, ouais, c'est ça. C'est bon,
tu vas voir, tu t'habitues.
Mais tu les as mises dans tes poches?
Bah non, mais pourtant j'ai mis des sous-vêtements cette semaine, je sais pas.
Vous avez préparé vos cadeaux de Noël, vous, ça y est, c'est parti?
Non.
Je pense que je vais faire des sourires aux gens.
Parce que je vois des trucs sous le sapin là, c'est pour moi? Non,
ah, non? Non, ah, oh, non, il faut pas ouvrir ça. Il faut pas ouvrir ça.
C'est peut-être attention, pour nos auditrices et nos auditeurs.
Attention.
Mais on leur donne quand?
Bientôt.
Peut-être qu'on. Pas en... Bientôt,
bah, allez, allez, bientôt. Soyez patients un peu. Mais ça a l'air vachement bien. Bon, allez, un petit coup de sirop et c'est parti pour le programme de la semaine. Puisque c'est la période des fêtes. Fin de la guerre, c'est la fête, mais pas trop la fête quand même. Nettoyer le popo des autres, c'est une autre forme de fête. C'est aussi la fête de la dinde et c'est la fête des dindes qui sont autour. Mais pour commencer, puisque c'est la magie de Noël, faites un vœu. Faites le vœu que Disney soit capable, encore aujourd'hui, de produire des dessins animés beaux, émerveillants, touchants, amusants, avec de jolis morceaux chantés. Oui, pour Noël et pour les 100 ans de Disney, faisons tous un vœu que Wish ne soit pas une énorme bouse fumante. Ah merde! Parce que si on dit le vœu à voix haute, du coup...
3, 2, 1...
Je suis là, je suis là. Oh, laissez-moi une seconde que je reprenne mon souffle.
Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux.
Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé.
C'est vrai, je suis un roi magnifique.
Wish, Asha et la bonne étoile de Chris Buck et Fawn Virasuntorn, où l'on suit donc les aventures d'Asha, pas assez achatées, hein, pas comme le télé-Asha, c'est Asha-SH, non je précise, c'est peut-être pas évident avec Disney. Donc on suit les aventures d'Asha qui rêve de devenir apprenti du roi magicien si beau, qui conserve tous les souhaits les plus précieux des habitants du royaume de Rosas, mais si le roi Magnifico était en fait un méchant sorcier mégalomane. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Disney de Noël dont j'ai personnellement appris l'existence il y a environ 5 jours?
C'est le cas de beaucoup de gens, j'ai l'impression. Hein.
Mais bah, qui sort vraiment quasiment en catimini, Alexis.
Oui, et puis il faut préciser que ce n'est pas juste le Disney de Noël, c'est le Disney des 100 ans de la firme aux grandes oreilles, et c'est là que ça va piquer le plus, je pense, parce que le film est quand même censé plus ou moins célébrer la magie de Disney, l'immortalité de la magie de Disney, qui, problème, est en état de mort cérébrale, hein, comme le film le démontre. Déjà, il y a, je pense, un double problème, et je vais m'axer là-dessus pour ce premier tour de table. Il y a clairement un problème de stratégie de production. C'est-à-dire qu'on est face à un film qui, clairement, veut faire des appels du pied aux fans de Disney de la première heure, comme de l'heure récente, en multipliant les clins d'œil, en multipliant les allusions plus ou moins forcées plus que moins.
Plutôt
quand
plus
même,
que moi. Il faut préciser que le film est parsemé
exactement.
De références à l'ensemble voilà. du catalogue
J'ai
des grands
liste,
classiques
là.
De Disney.
Voilà. Non, Sophie a fait la liste, on la verra tout à l'heure, mais la liste est longue comme le bras. Et le problème, c'est que ces références-là, elles ne sont pas incluses dans le film. Elles sont juste bazardées sur le... comme ça, un peu à la va comme je te pousse. Et il y a un manque de cohérence et d'inventivité dans l'utilisation de ces références qui est absolument criant. Et là aussi où il y a un problème de prod, c'est que déjà, on est face à un scénario qui est hyper bâclé. Tout va trop vite, tout est trop forcé, les personnages sont caractérisés de manière très grossière, ça manque cruellement d'entrain, ça manque de souffle. En fait, c'est un film qui patine, alors qu'encore une fois, il a un scénario vraiment simpliste. Et puis, il y a un problème de direction artistique qui est terrifiant, c'est qu'on a un film, et je pense qu'encore une fois, c'est la volonté de rendre hommage à tout ce que Disney a pu inventer, ou plutôt s'accaparer, en créant une espèce d'animation hybride, puisque grosso modo, pour résumer, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, on a donc une animation en 2D pour ce qui est des décors, c'est dessiné, alors je pense à l'ordinateur, mais c'est imitation dessin à la main. Je pense que tout est fait sur palette graphique.
Mais en crayonné.
Voilà, oui, en crayonné, exactement,
c'est
merci.
C'est un nom, hein, c'est un système de dessin merci. CG2D. Voilà. Qui était à l'origine beaucoup. D'ailleurs d'autres œuvres qui ont gagné des Oscars comme Paper Man, Le Festin.
Exactement. Donc, on a des décors qui sont en 2D, en crayonné, qui sont pour le coup plutôt réussis. Et puis par-dessus, on a des personnages qui sont modélisés en 3D, donc avec une technologie proche de celle de Pixar, que d'ailleurs Disney n'arrête pas de piller depuis qu'ils ont racheté Pixar. Sauf que, pour essayer de créer quand même un lien entre ces deux techniques d'animation, plutôt que de réfléchir peut-être à la mise en scène ou à une confrontation d'esthétique comme on pouvait avoir dans les deux derniers films d'animation Spider-Man, en fait, on va juste rajouter un coup de crayon par-dessus les modèles 3D. Ça marche pas, c'est pas beau, on n'y croit pas. Et vraiment, encore une fois, s'il y a bien un truc que Disney a globalement réussi en termes d'animation ces dernières années, c'est pas forcément l'écriture, mais c'est au moins la direction artistique. Et là, ça se plante. Et ça se plante méchant, quoi.
Alors, moi, je serais un peu moins sévère avec toi parce que je trouve que ce système qui s'appelle Meander, c'est une innovation, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ça me séduit assez dans les premiers moments. Cette différence de texture et ce côté, effectivement, conte de fées, puisque comme souvent dans Disney, ça commence dans un livre de conte de fées. Moi, j'ai été assez séduit. Malheureusement, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'ils n'en font rien. Sophie.
Alors, cette technique a déjà été utilisée, c'est pas du tout innovant, et ça a été même utilisé par un Français, par Jean-François Laguioni, qui avait utilisé ça pour Louise en hiver, notamment, mais lui, pour le coup, c'était des vraies aquarelles dans lesquelles il s'était aidé d'ordinateur pour faire l'animation des personnages, et ça donnait un petit peu cette espèce de choses qu'on
bizarrerie.
De bizarrerie, qu'on n'arrive pas trop à situer, sauf que lui, c'était un budget beaucoup vraiment moindre, hein. C'est une coproduction franco-canadienne, parce que le Canada a beaucoup de studios de post-prod. Là, je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'en plus, sans mentir et pour parler d'anecdotes, on a rematé avec Alexis un des rares Pixar qu'il avait pas vu et qui est assez cher à mon cœur, qui est Rebelle, que je trouve vraiment sous-estimé. Bah, en fait, Wish, ça ressemble un peu au souci d'animation, de vieillissement, pas le souci, parce qu'il n'y a pas de souci. Le vieillissement des animations 3D de l'époque. C'est un peu comme quand vous rematez Toy Story, que vous faites... alors que vous adorez le film, mais ça vieillit. Ça vieillit parce qu'on est habitué dans une surenchère de la perfection technologique et à raison. Hein. C'est vrai que maintenant, réponse, ça vieillit, mais quand on a vu ses cheveux pour la première fois, on était tous en mode « Waouh, c'est incroyable la texture des cheveux !» quoi. Et oui, maintenant vous le savez, je ne sais pas dire cheveux. Ça, c'est autre chose. Juste pour revenir du coup un peu sur Wish, avant de donner la parole à Simon, la surenchère, comme l'a dit Alexis, c'est terrible. C'est terrible parce qu'à un moment, j'étais dans un jeu, j'étais dans un énorme « Où est Charlie Géant ?» des références à Disney en disant « Ah bah tiens, putain, ça c'est la réplique d'Aladin. Ah bah ça, en fait, quand l'objet s'anime, c'est comme dans La Belle et la Bête. Ah bah ça, ah bah quand le stylo il fait un truc, bah, en fait, il fait un Mickey. » Et genre, c'était terrible parce que ça emprisonnait un récit. Ça empêchait toute forme d'implication émotionnelle, ce qui est quand même normalement le cœur de Disney, c'est de créer de l'émotion très pure, très enfantine, et je trouve que ça marche même sur certains films un peu plus ratés. Par exemple, j'aime pas trop Toy Story 4, mais je peux pas te dire qu'il y a pas d'émotion dedans, parce que ça, c'est normalement ce qu'on arrive toujours à récupérer dans un Disney. Même Encanto, hein, par exemple, pareil, que j'aime pas beaucoup.
C'est
mais...
beaucoup de Pixar.
Oui,
si
c'est Pixar, ouais, c'est ce que j'allais dire. Toy Story,
je sais, mais
ils sont distributeurs, mais ils interagissent pas tant que ça sur la fabrication.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Non, bah alors reprenons Encanto. Encanto, c'est Disney.
Oui, tout à fait. Bah, c'est le dernier grand film de Noël, d'ailleurs.
Ouais. Bah, qui n'est pas réussi, mais qui est bien mieux que ça, hein, on va pas se mentir. Ce qui me gêne, c'est que, et je pense que Simon va rebondir là-dessus, je trouve que l'histoire est super. Le point de départ est super. Le fait que ce mec vole les rêves des gens et qu'ils ne s'en souviennent pas, c'est vraiment l'essence même du conte. Et c'est un conte qu'on n'a pas vu comme ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Je me dis trop bien, une histoire un peu innovante. Sauf que le souci, c'est qu'il n'y a rien d'innovant dans ce film à aucun fucking aspect et à aucune fucking minute, alors que l'histoire est cool.
Simon, est-ce que Wish, est-ce que toi, tu as vu, par exemple, la référence et le lien qu'il y a avec un département de l'Est de la France que nous avons perdu entre les deux guerres ?
La Wesh-Lorraine ?
Oui.
Merci Nicolas d'être au monde.
C'est le sirop pour la toux, ça me met dans un état.
Il y a vraiment quelque chose d'assez
ne refais plus jamais cette blague quand quelqu'un est en train de boire un verre de coca.
Il y a quelque
chose. Excusez ma toux par ailleurs, parce que comme vous l'aurez entendu, je suis un peu malade. Simon.
Ce qui est important avec le film et ce qui en fait une œuvre de premier plan, c'est qu'elle répond à une question qu'on a été nombreux à se poser, et je pense depuis plusieurs années, y compris autour de cette table, c'était mais où est passé l'humain chez Disney ? L'humain, je veux dire, des gens qui sont inspirés, des gens qui ont des désirs d'histoire. Où sont ces gens-là ? Est-ce que cette société n'est pas devenue un espèce de pur golem capitaliste, une espèce de machine à fabriquer du produit animé ou audiovisuel plus qu'un endroit où il y a des artisans ? Est-ce qu'il y a encore des êtres humains qui bossent à Disney ? Eh bien, on peut désormais affirmer que oui. Et pour une raison évidente, c'est que ce film existe en salle, que ce film a été validé à chacune de ses étapes de production, que ce soit en termes d'esthétique, d'écriture, j'ai même envie de dire de design des personnages. Et enfin, en termes de rendu technique, le simple fait que des gens, que quelque chose, qu'il y ait eu des processus de validation qui soient arrivés jusqu'à ce bousin qui est à l'écran aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des humains. Parce qu'aucun algorithme peut se planter comme ça. Aucune IA ne peut faire des erreurs pareilles. C'est-à-dire que si tu veux, ne pas voir que le rendu ressemble à du jeu vidéo, à ce qu'on appelait le cel shading à l'époque de la Dreamcast et de la PS3, et ne pas voir que ça a l'air terriblement vieillot et limité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prouesse technique derrière, hein. Je parle vraiment de rendu esthétique. Ne pas pouvoir anticiper ça, c'est quand même très étrange. Ne pas voir qu'on a des trous dans la raquette, dans l'histoire incroyable. Ne pas voir qu'on arrive à faire une histoire inutilement compliquée alors que le truc est tout bête. C'est une allégorie politique, c'est un leader, donc Magnifico, qui prend les rêves des gens pour ne pas vraiment les réaliser et pour les tromper. C'est évident qu'à un moment, il y a eu quelqu'un chez Disney qui s'est dit « Tiens, moi, je vais parler de qu'est-ce que c'est aujourd'hui une démocratie ou en tout cas un système politique qui tourne pas rond. » C'est évident, tu peux pas dire « Tiens, moi, je vais raconter l'histoire d'un roi qui vole les rêves des gens, les rêves de sa population et de quelqu'un qui va venir lui lancer un défi sur ce terrain même. » Bon, bah voilà, quand tu fais ça, c'est que tu as une petite idée de la société. Enfin, tu veux parler de cette question-là. Non, le film n'en fait rien, effectivement. Des petits compagnons de Hacha, ils sont tous, enfin, je veux dire, je pense que si t'es vegan, à la fin, la chèvre, tu veux la manger, ah oui. mais avec les dents.
Je te confirme ça. Moi, j'étais plus habitué aux animaux parlants, c'était difficile. Mais moi, ce qui est là aussi assez symptomatique, alors ça me vaut absolument rien, hein, parce que je suis allé voir à la première séance, mercredi matin, il y avait des enfants dans la salle. Je n'ai pas entendu un oua, je n'ai pas entendu un rire.
Tu l'as vu en VO ou en VF ?
Non, en VF.
Ok.
Ouais, je l'ai vu en VF.
Mais les retours publics sont globalement assez désastreux sur le film.
Enfin, je veux dire, les mômes avaient l'air de se faire chier. C'est-à-dire quand le générique a commencé, les mômes étaient déjà en train de partir, quoi. Oui. C'est-à-dire que vraiment, les enfants de la salle dans laquelle j'étais, en tout cas, ce qui vaut ce que ça vaut, c'est pas grand-chose, s'ennuyaient, manifestement.
Mais j'en arrive à quelque chose qui est quand même un petit peu sidérant. C'est qu'effectivement, l'effet conjugué de la surindustrialisation consécutive au succès du MCU. À un moment, l'assèchement technique, humain, organisationnel engendré par ce même MCU, plus les conséquences de la crise sanitaire, ça a eu un effet, mais vraiment, ça a été une déflagration sur Disney. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, les films qu'on voit aujourd'hui ont des films qui ont été conçus, produits pendant cette crise sanitaire. Mais enfin, ce que je veux dire, voilà, c'est que là, on assiste quand même à un phénomène qui est quand même très, très étonnant, c'est-à-dire à l'écroulement intérieur d'un studio qui était, il y a encore, je veux dire, un an et demi, le studio le plus puissant probablement de l'histoire d'Hollywood. Et celui dont on se disait qu'il allait finir par racheter tout le monde et peut-être devenir Hollywood. Ce studio est en train de s'écrouler sur lui-même à tel point qu'il n'est même pas foutu d'avoir une idée pour célébrer son centenaire. C'est dingue quand même, son centenaire.
Mais ce qui est intéressant, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Simon, c'est que paradoxalement, donc outre l'effet de manche de finalement il y a des êtres humains parce qu'il faut être humain pour valider un truc aussi raté, en fait moi ce que je vois, c'est précisément du pur produit algorithmique. C'est-à-dire de se dire, ah tiens, on va donner à manger à une machine tous les scénarios de Disney et on va lui demander de faire un à la manière d'eux sans ne jamais rien raconter. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une sorte de patchwork monstrueux avec une idée de départ, c'est-à-dire un prompt, et en disant, vas-y, mets-moi... Enfin, en fait, on a l'impression qu'on est arrivé à un stade, effectivement, de mécanisation de l'imaginaire où, en fait, bah, il ne reste plus aucune idée. On essaye de juste produire quelque chose qui doit cocher un certain nombre d'attendus exécutifs, de directeurs... Et du coup, bah, voilà, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de magie. Les chansons sont nulles. Le méchant est vraiment... Enfin, je veux dire, ce qui reste souvent... dans l'imaginaire collectif autour de Disney, c'est les personnages les méchants qui sont parfois et même souvent couleur, plus iconiques que les héros ou que les héroïnes.
Ah bah oui, Ursula.
Jafar, Maléfique, etc., etc. Personnellement, moi, c'est Lady Tremaine, la belle-mère de, parce que c'est mon objectif de vie. C'est autre chose. Devenir une vieille dame méchante avec un chat pervers. Mais là, le méchant est nul. Mais enfin, vraiment. Nul, mais d'une nullité. C'est-à-dire qu'il est ni démoniaque, ni diabolique, rien n'a de sens.
Il est capitaliste. Mais... Ce qui est un paradoxe.
Mais il n'est même pas capitaliste, il est nul.
Oui, alors mais moi j'ai un petit peu le sentiment qu'on arrive à la fin d'une logique, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grande interrogation quand Disney, après La Princesse et la Grenouille, son dernier film en animation dite traditionnelle, même s'il y avait déjà bien sûr plein d'ordinateurs, de numériques, tout ce qu'on veut, mais qui pour le spectateur avait un rendu d'animation tradie, et bien après ce dernier film-là, il y avait cette question de est-ce que Disney va réussir à se réinventer ? Et on avait cru pouvoir dire que c'était le cas, parce qu'il y avait eu les succès notamment de Réponse et puis de Frozen, de La Reine des Neiges, mais c'était oublié un peu vite à mon sens que là on parle de succès au strict sens économique, industriel par rapport au marché, mais moi ce qui me semblait évident avec ces films-là, c'est qu'on était basé sur des esthétiques que je qualifierais d'un peu génériques, un peu faibles, souvent techniquement supérieur à la concurrence parce qu'il y avait des moyens, un savoir-faire et une capacité d'investissement de la part de Disney qui faisait que techniquement on était sur des trucs très bien modélisés, sur des animations extrêmement fluides, des décors très travaillés, enfin tout ce qu'on pourrait, la liste est longue, hein. Mais il me semblait qu'il n'y avait pas eu de reconception, de réimagination de l'esthétique Disney d'animation 2D à l'occasion du passage en 3D. Il y avait juste eu une perte d'une partie des savoir-faire et une tentative un peu étrange, un peu absurde, un peu vaine, de transposer ce qui existait déjà en 3D. C'était particulièrement flagrant, je trouve, et dans Réponse et dans La Reine des Neiges. Mais en fait, l'animation dessinée et l'animation par ordinateur, c'est deux médiums différents quasiment. C'est presque aussi différent que le cinéma muet et la 4DX. Et je pense que ça veut dire qu'il y avait un impensé créatif, qu'il y avait une absence de réflexion profonde sur qu'est-ce qu'on allait proposer comme œuvre, qu'est-ce qu'on allait faire. Et à partir de là, il y a forcément un moment où, tu vois, quand tu tires sur la corde comme ça, où elles seront. Et tu vois, Encanto montrait qu'à mon sens, Disney arrivait à survivre artistiquement quand il allait piller, mais alors vraiment piller comme un viking bourré au vermouth, tu vois, l'héritage de Pixar et l'héritage d'Universal, de DreamWorks, quoi. Mais sinon, Disney s'en est vraiment tourné à vide. Et là, effectivement, quand Disney doit se reposer sur son propre héritage, on voit qu'ils ne savent plus quoi en faire, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce dont ils sont faits.
Mais c'est ça, Alexis. En fait, je crois que là où le film est un objet d'étude assez passionnant, mais qui est quand même assez triste, surtout pour les gens comme moi, comme Sophie aussi, qui avons grandi avec Disney. Je sais pas ce qu'il en est pour vous,
comme Simon, tout le monde,
Nico,
hein,
mais
comme tout le monde, il y a quasiment personne.
Moi, c'était pas les mêmes. Moi c'était Blanche-Neige en fait, quand j'étais petit.
Mais bon, encore, t'avais le bac déjà. Mais il y avait quand même à l'époque l'idée que les films soient des très grands films d'animation ou des films sympas sans plus, parce qu'il y avait déjà quand même de la fluctuation, hein, à l'époque de l'âge d'or de Disney, ils se valent pas tous, mais on avait quand même l'impression à chaque fois qu'on découvrait un nouveau Disney qu'on ajoutait une pierre à la mythologie de Disney et que c'était quelque chose qu'ils avaient créé, c'était leur ADN, leur identité. Et c'est vrai que là, le film est incapable d'inventer sa propre identité et incapable de faire quoi que ce soit avec l'identité des films préexistants. Mais en plus, bon, y a un point sur lequel il faut s'attarder, tu l'as déjà soulevé, Nico, les musiques sont nuls, mais plus que nuls, les musiques, d'un point de vue strictement musical, ne correspondent en rien aux critères d'une musique Disney. Et je fais référence évidemment à la période de l'âge d'or des années 90, avec les deux très grands compositeurs qui étaient Howard Ashman et Alan Menken, et puis ensuite Alan Menken tout seul, puisque Ashman est décédé du sida assez jeune. Ces deux mecs-là, ils ont façonné l'identité musicale de Disney d'un point de vue mélodique, d'un point de vue d'orchestration, d'un point de vue rythmique. On reconnaît les morceaux Disney de cette époque-là en 3 secondes. Là, j'ai l'impression de voir, et j'ai fait la blague à Sophie d'ailleurs, j'ai l'impression de voir une de ces espèces de comédies musicales pop de Broadway à la Dear Evan Hansen, qui n'ont pas de personnalité, qui ne sont pas spécialement intéressantes, qu'en plus des orchestrations assourdissantes.
Exactement la même réflexion.
Mais vraiment, je ne comprends pas ce choix. Je ne comprends pas ce choix, parce que ce n'est pas ça l'ADN Disney, ça n'a jamais été ça.
Oui, okay. Et juste, moi je vais aller sur autre chose, mais d'un point de vue musical, je trouve que La Reine des Neiges, c'est relativement raté sur les trois quarts des chansons, surtout qu'il y en a beaucoup, mais je ne peux pas enlever que Libérée, délivrée est une très bonne chanson Disney.
C'est un tube gigantesque.
Qui sonne Disney.
Mais qui sonne Disney. Ce que je veux dire, c'est que là, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ce truc un peu bif-bof avec un tube, parce que c'est un peu ça, La Reine des Neiges 1 et 2. Donc, on ne peut pas leur enlever, peu importe ce qu'on pense de leur qualité, et c'est un vrai succès, et pour moi, ça a été une espèce de petite renaissance. Il ne faut pas oublier, par rapport à Disney, que ça fait un moment... Il y a un bon moment qu'ils utilisent ce que je vais appeler du recyclage, et pas que du petit recyclage, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, il y avait déjà les suites, mais les suites des TV, c'est-à-dire que Le Roi Lion, 2 et 3, Le Aladdin, 2, 3. Et ça a été le début de la fin, même si je considère qu'il y avait un certain soin, au moins narratif, apporté à ces DTV. Sauf que depuis quelques temps, et là, il faut bien en parler, on a... 1. Les suites. 2. Les adaptations en live action. Ou en tout cas les remodélisations type Le Roi Lion. Mais sinon, on a eu La Belle et la Bête, etc. On essaye
sirène.
La Petite Sirène, etc., etc. Et là, on voit que ils ont peut-être même plus la connaissance de leurs propres œuvres. Et ça, c'est gênant. Parce que Disney, ça a été moteur de beaucoup de choses. Et je dis ça d'un point de vue très positif. Et là, on commençait à être sur une période assez intéressante. Je le disais hors micro. Disney a tenté certains virages qui n'ont pas été acceptés, mais notamment sur les questions LGBT. Il y a des choses qui ont été tentées, qui ont été ratées. Et là, plutôt que de se dire « Ok, je vais digérer toutes mes influences, tous mes styles, en fait, je ne vais même pas faire des clins d'œil. » Parce qu'eux revendiquent le clin d'œil. Ce n'est pas un clin d'œil si tu ne le comprends pas. Mmh. Là, c'est vraiment de l'image à poser. Et je vais vous faire maintenant la toute petite liste que j'ai faite. Mais par exemple, elle a des copains qui sont... elle a des copains, c'est les sept nains. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est habillé comme Simplet, qui a les oreilles un peu décollées et qui est débile.
Il y a
Tchoum, etc.
Prof.
Voilà. À un moment, elle met une robe, c'est la robe de Marraine la Bonne Fée. Le thème qui tente de pointer son nez tout le temps, le thème musical, c'est celui de Pinocchio, comme la petite étoile qui descend, blablabla, vous avez compris. Il y a une pomme cachée avec Magnifico, c'est la pomme de Blanche-Neige, elle a le crâne, elle est pareille, c'est vraiment la même pomme. Genre, la même, c'est pas un effet, c'est la même. La petite chèvre, c'est une référence clairement à Philoctète dans Hercule.
Ah, oh, bien sûr, oui.
Bah oui, à un moment, le méchant, il fait apparaître des trucs, c'est les ronces de Maléfique.
C'est les ronces de Maléfique complètement, mais le vert, c'est le même code couleur.
Il y a un truc, à un moment, quand il ouvre le livre de magie noire, pareil, pas trop un spoil, il y a une ombre, c'est à la fois le dragon de Maléfique, mais c'est aussi dans Fantasia. Pareil, il y a un moment quand elle rentre et qu'elle voit des trucs bouger, c'est une référence à Fantasia. À un moment, il y a un stylo qui dessine un truc, c'est Mickey. Il y a des meubles qui prennent vie, c'est La Belle et la Bête. À un moment, il y a une référence à Réponse sur un bateau avec la réflexion du ciel dans l'eau. Il y a un moment où il y a une imagerie qui est très semblable à La Princesse et la Grenouille. Et il y a une réplique d'Aladin. Voilà, et ça, c'est que ce que j'ai fait de mémoire après avoir vu le film. C'est-à-dire que je suis sûre que j'aurais pu.
Je pense qu'on a raté la moitié, facile.
Mais ouais, non, mais je vais pas vous le faire en rap non plus, tu vois. Mais,
quoique, moi, je suis pour. Hein.
J'y songerai pour la prochaine fois, pour un bonus. Mais c'est honteux de faire que ça.
Ouais,
en fait.
Ouais. Mais c'est marrant parce que ça me rappelle, il y a un film qui est sorti il y a quelques années de ça, dans un souvenir assez flou, où pareil, il était question comme ça d'éléments pop culturels qui étaient digérés par une grosse firme avec un patron qui était joué par un acteur.
Ça me dit quelque chose.
Pré-joueur 1.
Oui, c'est ça, Pré-joueur 1.
Ah putain, ouais, voilà. J'ai été attaché de presse sur ce film.
Ouais, ouais, voilà. Et tout le monde avait dégommé le film en disant que c'était du fanservice alors qu'il disait exactement que ça allait se produire. Ah bah ça s'est produit.
Il est fort, Steven. Hein.
Ouais, on fait moins les malins maintenant.
Un dernier. Alors, on va comme d'habitude, puisque tout le monde a profondément détesté ce film, sauf peut-être Arthur. Mais d'ailleurs, vous l'avez.
Arthur ?
Non, mais en fait, Arthur a adoré Acha, donc on a pris des mesures de sécurité.
Oui, c'est ça. Okay.
Il est dans le placard et quand il sera calmé et raisonnable, mais il pourra sortir.
Dans
2-3 jours.
Je vais lui redonner mon sirop pour la toux, ça va le calmer. Tu vois. S'il y avait une chose à sauver, Sophie.
L'idée de base, je trouve que l'idée de base est super et il y a une voix d'un comédien que j'aime bien mais que vous connaissez peut-être pas, donc c'est peut-être pas important.
Simon.
Ça se trouve, je vais vraiment dire la même chose que Sophie parce qu'on parle peut-être de la même voix. Oui, effectivement, le concept de base que je rappelais tout à l'heure qui aurait pu être un Disney très politique et très malin et très enchanteur. Bon, pas de bol. Et la voix de la chèvre en VO.
Qui est qui ?
Je sais pas, mais j'aime bien sa voix.
Ah non, moi je pensais à un de ses potes qui est joué par Javier Harvey Guillem joue dans What We Do in the Shadow, la série. Mmh. Voilà, super comédien.
Moi, je l'ai vu en VF donc.
Donc je m'en fous.
Moi en vrai, c'est ça aussi, ça m'a profondément peiné parce que c'était une idée que j'ai pas vu beaucoup, voire peut-être même jamais dans un Disney. En général, le méchant ou la méchante d'un Disney est soit laid, soit un peu ridicule, soit terrifiant, ou les trois à la fois. Et souvent, la laideur du méchant ou de la méchante apparaît pas tout de suite. C'est le cas historiquement avec Blanche-Neige. On commence par une reine qui est quand même assez stylée, assez belle.
Qui est la plus belle même.
Qui est la plus belle du royaume jusqu'à l'arrivée de Blanche-Neige. Et puis en fait, on va découvrir sa véritable apparence et elle est quand même dégueulasse.
T'as oublié la réplique Mirror on the wall.
Mais oui, mais j'avais cité déjà trois autres références à Blanche-Neige. Donc,
non, mais en fait, il y a souvent ce rapport à la laideur ou en tout cas un physique très particulier, très marqué. Et c'était la première fois, à mon sens, qu'on avait un méchant, qui est un vrai méchant, vraiment quelqu'un de maléfique, qui a tous les attributs physiques et l'attitude du prince charmant.
Non, il a un bouc.
Bah, de fait, oui, mais peu importe. Je sais ton problème avec les boucs, mais ça n'est pas la question. Le fait est que je trouvais ça super intéressant d'avoir un méchant qui ressemble à l'idée qu'on se fait en général du héros dans un film Disney. Je trouvais ça intéressant et je pense que, pareil, je pense que ça a été développé comme ça,
ça
et finalement ça a été sacrifié.
Ah mais oui, c'est le cas de la Reine des Neiges, des eaux.
Ah, peut-être, j'ai pas vu la Reine des Neiges.
Ah ouais, mais c'est le cas de la Reine
des Neiges.
Parce
que j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, c'est rare, quoi. Et je trouve ça dommage qu'ils l'exploitent pas.
Ouais, moi je suis assez séduit au début par cette tentative de travail sur les textures et sur le dessin. Mais encore une fois, l'idée est intéressante. Visuellement, c'est assez beau. Mais derrière, ils ont.
Ce qu'on peut dire, au moins, on l'a pas dit que la petite étoile est quand même vraiment mignonne, même si elle
ouais,
est
mais
Mario.
Ouais, elle vient de Super Mario Galaxy, quoi. Ça, c'est un vrai problème aussi. C'est un putain de plagiat, quoi.
Ah, mais j'ai trouvé mignonne. Voilà. Ah, elle, c'est la fée clochette, la
oui,
poudre magique.
Clochette, bah oui.
Voilà. Je vous en trouverai d'autres.
Même quand elle est prise dans la robe au début, c'est une citation directe de Peter Pan.
Alors,
bref,
on
vous
est
l'aurez
pas
emballé, compris,
hein.
On n'est pas hyper emballé par Wish, Asha et la bonne étoile de Chris Buck et Fawn Virasuntorn. Et vous, est-ce que si vous aviez un souhait à faire, est-ce que ce serait plutôt Wish et la belle étoile ou Wesh et les belles TN? Vous pouvez me le dire dans le. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires.
Waouh.
Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez le faire.
Oui, dites-le.
Et justement, à ce propos, eh bien, niveau blockbuster, c'est un peu la soupe à la grimace du côté du box-office, Simon.
À la grosse soupasse, à la grosse grimace. Il faut bien voir qu'on est dans une. On va s'achever une année très particulière pour Hollywood. Alors, rarement, et peut-être jamais depuis les années 60, depuis la fin des années 60, on avait vu une crise pareille dans les gros studios et dans le cinéma de divertissement de masse. Rappelons qu'à la fin des années 60, cette énorme crise avait engendré notamment la naissance du nouvel Hollywood et un renouveau créatif très très important pendant au moins une décennie. On va voir ce qui va se passer là à Hollywood. Alors la situation est un peu différente parce que même si effectivement, et je vais y revenir après plus en détail, l'essentiel des blockbusters font d'énormes bides en 2023, d'énormes bides vraiment, c'est très important. Il y a quand même des conditions qu'il faut rappeler un petit peu. Les marchés russes et les marchés chinois se sont beaucoup contractés, l'un parce que c'est la guerre, et l'autre parce que tout simplement c'est la guerre. Et donc voilà, moins de films, moins de territoires étrangers, moins de sous. Quand bien même, j'en profite aussi pour le dire au passage, on surestime souvent les remontées de recettes, tout simplement parce que les chiffres qu'on vous donne, c'est le chiffre, on va dire, de global du box-office, c'est pas le chiffre que va toucher le studio là-dessus. Bref. Il n'empêche, leurs marchés se sont contractés. Les conditions de tournage du fait de la crise sanitaire ont fait, au moins aux États-Unis, gonfler énormément les budgets des films. Il y a eu vraiment une espèce de bulle inflationniste là-dessus, due aux conditions de tournage Covid que n'avaient pas forcément anticipées ou n'ont pas su maîtriser les studios. Bref, il y a plein de raisons. La cardinale reste quand même que les gens ne vont pas voir ces films. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut bien prendre conscience que sur l'année 2023, à l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a un unique blockbuster américain qui s'annonce rentable, c'est les Gardiens de la Galaxie 3. Et attention, rentable sans aller taper le milliard, hein, ce qui est quand même un truc assez notable. Alors là aussi, je vais nuancer mon propos. Au final, plusieurs des blockbusters de 2023 vont achever leur carrière économique en sortant du rouge, en étant dans le vert, parce qu'il y a encore plein de ventes, des ventes de télé, des ventes aux plateformes, la vidéo physique, bref, il y a plein de modalités économiques encore qui attendent ces films, mais il est rarissime que dans les dernières semaines d'une année, les plus gros blockbusters de l'année écoulée, les plus gros blockbusters américains, soient presque tous à l'exception d'un seul, d'énormes bides. Je reviens quand même sur ce qui est sorti ces derniers mois. Je veux dire, on a eu du Marvel, souvenons-nous des succès des Marvel ces dernières années, hein. Bon, The Marvels va être leur pire flop, le pire flop de leur histoire. Indiana Jones. Indiana Jones, dont on peut certes se dire que 250 millions de budget, c'était beaucoup, mais qui est quand même une saga qui fait et qui a fait rêver des millions de spectateurs. On a eu The Flash. Non, je déconne.
Très bonne vanne.
Eh oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait de vraies propositions cette année. Si on en croit les succès des années précédentes, sur le papier, ça devait ou ça pouvait marcher. Le programme n'était pas mieux ou pire. Et il faut bien voir, rappelez-vous, même des films comme par exemple Elementary, dont on a rappelé qu'il avait bénéficié d'un remarquable bouche à oreille, ce qui est vrai, même avec ce bouche à oreille, il n'est pas assuré d'être rentable à la fin de l'année. C'est dire quand même la désaffection massive qu'il y a. Et alors justement là-dessus, on voit depuis quelques jours beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux des commentaires disant « Ah, c'est la chute de Disney !» Parce qu'effectivement, là où Disney avait réussi en 2019, alors ce qui était une année record, mais tout de même, c'est il n'y a pas très longtemps, en 2019, à placer 7 films au-dessus du milliard, bah là, il se trouve qu'en 2023, c'est zéro. Ce qui fait quand même une sacrée différence. Or, a priori, tous les gens qui travaillent chez Disney ne sont pas morts. Tous n'ont pas décidé de comploter à la faveur de la Warner, parce que la Warner, ça va pas très bien non plus. Ce que je veux dire, c'est que, c'est bien sûr, comme je l'ai dit en préambule, il y a des changements économiques, le système n'est plus tout à fait le même. Néanmoins, c'est bien le public, la plus grosse variable d'ajustement. Et donc, même si oui, l'année de Disney est une annus horribilis, l'annus horribilis, elle est pour tout le monde. Songez qu'il y a quand même des franchises qui se sont plantées, comme Mission Impossible. Mission Impossible,
ça, c'est fou, ça.
Mais dont tout le monde se disait et pouvait se dire très légitimement, vu les derniers strikes de Tom Cruise, que ça allait être un raz-de-marée.
Bah, et surtout pas... le dernier strike de la franchise Mission Impossible, quoi, parce Exactement. Que Fallout, c'était pas rien. Hein.
Exactement, mais ce qui veut dire que donc voilà, le public s'en lasse. Même Fast and Furious 10, Fast X, quoi, qui est quand même une saga qui marche bien pour Universal d'habitude, eh bien, pas cette année. Ça veut donc dire que on est dans un moment très particulier. Alors bien sûr, comme je vous le précisais au début de mon propos, on pourrait se dire, mais oui, mais dès que les fondamentaux, je veux dire Russie, Ukraine, les différents marchés, les surcoûts entraînés par le Covid, dès que ces fondamentaux-là auront disparu, tout simplement, on va revenir à la normale. Alors ça n'est pas dit parce que je le rappelle, c'est le public surtout qui a fui ces films-là. Et attention, ce qui nous arrive en 2024, est-ce que c'est de nature à fédérer les gens? Je vais vous citer alors, quelques exemples. Ça n'est pas tout, bien sûr. Il y a aussi des propositions un peu plus excitantes. Mais si on est dans le gros blockbuster, on a Gladiator 2, Venom 3, Deadpool 3, Sonic 3, Kraven 1, Borderlands 1, Sans un bruit 3, Bad Boys 4, La planète des singes 4. Et puis, ben voilà, c'est vous donner quand même une petite idée de ce qui
des singes. 4. Oui, ah oui, pardon, je m'étais planté sur le compte, mais c'est bien la planète des singes 4.
Voilà, et les putes de l'autoroute 3, c'est l'année prochaine aussi, non?
C'est la sortie c'est la 4DX. Ouais. C'est le premier film qui colle. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout dit que le public se précipite en masse voir ces films-là. Attention, je ne suis pas en train de me prétendre devin, je ne suis pas en train de dire qu'aucun d'entre eux ne rencontrera le succès, surtout, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais si on regarde ce qui s'est passé cette année. Rien n'indique que ces films-là seront plus capables d'attirer en masse le public que ce qui s'est déroulé ces 12 derniers mois. Or, combien de temps le système de grand studio américain peut-il tenir avec des plateformes non rentables et beaucoup trop chères ? Parce que c'est ça leur problème aussi actuellement. Ils ont investi comme des tarés au moment de la pandémie dans des plateformes. Pour l'instant, il n'y a que Netflix qui s'en sort, mais toutes les autres plateformes sont à perte. Donc, combien de temps peuvent-ils tenir avec des plateformes qui sont des gouffres financiers ? Des blockbusters qui sont censés ramener en masse le public, mais qui ne le ramènent plus. Ça, c'est une vraie question, et c'est une question d'autant plus intéressante que ce qu'on constate, en revanche, c'est qu'on a un secteur indien qui est en train de frémir très très fort et qui pourrait vraiment déferler. Ces choses-là peuvent aller très très vite, hein. Il suffit d'atteindre certaines bulles de public pour ce qui est du grand spectacle. On voit que le cinéma européen est quand même dans une forme absolument olympique, et le cinéma français dans une forme cosmique, en termes de variété, de créativité, et aussi, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission, de succès internationaux. Bref, il y a peut-être de gros changements, et sans parler de révolution, de sacrés soubresauts qui attendent la planète cinéma dans les mois à venir.
Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre.
Et on va reprendre le fil de notre programme de la semaine avec ce fait culturel qui a que des réalisateurs ou des réalisatrices qui, bien que, eh bien, il n'ait à peu près rien fait de signifiant depuis plusieurs années, parfois plusieurs décennies, eh bien, sont toujours très attendus. On guette leur nouvelle production de manière parfois assez avide. Ce fut le cas, par exemple, de José Benazeraf après Josiane, 45 ans, qui date quand même, je vous le rappelle, de 1983. C'est également le cas de Wim Wenders. Le réalisateur allemand revient avec Perfect Days, où l'on suit la vie d'Hirayama au Japon. Hirayama dans le métier de nettoyer les toilettes publiques, mais Hirayama, qui est interprété, je vous le rappelle, par Koji Yakusho, qui a gagné le prix d'interprétation masculine à Cannes. Hirayama est heureux. Il y a des bonheurs simples comme ça, des vies en paix.
Maman et Oji-san, vous n'êtes pas très
bien. Ce monde est... 本当はたくさんの世界が繋がっているように見えても繋がっていない世界がある。兄さん、本当にトイレ掃除してんの？どうも。もう一度聞いてもいい？
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Perfect Days de Wim Wenders avec Koji Yakusho. Certains d'entre vous autour de cette table l'avaient vu au moment de Cannes. C'était ton cas, Simon. Que reste-t-il depuis qu'à Cannes?
Bah, moi, je tiens à dire que j'étais quand même assez touché, assez impatient de voir ce qui se passe quand Wim Wenders nous invite au cabinet de curiosité.
Le niveau de blague
elle était préparée depuis longtemps, celle-ci, en plus.
Bah, depuis Cannes.
Bah, j'avais oublié de la faire à Cannes et j'étais super frustré. De non, plus sérieusement, moi, j'étais très curieux déjà de revoir Wim Wenders parce que Wim Wenders a réalisé quelques très, très, très grands films, que ce soit Les Ailes du Désir, Paris, Texas. Il a aussi réalisé plein de navets, surtout ces dernières années. Et du coup, j'ai toujours un petit peu cette tentation, cette curiosité de voir est-ce qu'il va revenir à son meilleur ou est-ce que c'est toujours ce vieux monsieur allemand qui pontifie un peu en ayant des jolies lunettes. De même, tu évoquais l'acteur Koji Yakusho qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Moi, c'est un comédien que j'aime beaucoup. C'est un comédien qui m'a marqué dans beaucoup de films. Je pense notamment à Cure, de Kurosawa. Pas ce Kurosawa-là, l'autre Kurosawa. Donc, regardez Cure de Kurosawa. Bref, il y est exceptionnel. Donc voilà, j'étais assez impatient et heureux de découvrir le film. Il était précédé plutôt d'une réputation assez flatteuse à Cannes. Et puis je l'ai vu. Et en fait, c'est vraiment... Écoutez, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Si vous avez envie de voir un vieux monsieur vous enfiler les poncifs, et vraiment des poncifs épais, les poncifs de quelqu'un qui a mangé beaucoup, beaucoup de riz et sans tabasco, enfiler des poncifs sur le Japon, c'est au bon endroit. C'est-à-dire que Alors attention, encore une fois, moi je connais mal et assez peu la société japonaise. Je ne voudrais certainement pas prétendre que j'ai quelconque expertise en la matière. Néanmoins, je connais les clichés que nous partageons sur la société japonaise. Et là, il y en a un nombre incroyable. Je développerai après pour laisser la parole à mes petits camarades. Mais voilà, c'est vraiment la... C'est un petit peu au cinéma et à la philosophie ce que les cartes postales de Marc Chagall qu'on peut acheter sur les présentoirs dans les dîners d'autoroute. Enfin voilà, c'est un peu pareil. C'est totalement artificiel, c'est con comme la lune et c'est très laid.
Alors Sophie, ce n'est pas tout à fait ton ressenti.
Oui, je suis très curieuse de savoir dans quelle station-service on vend des cartes postales de Marc Chagall. Mais à part ça...
C'est pas la station-service dans laquelle il y a la scène entre les deux camions dans Josiane, 45 ans, secrétaire à servicier.
À camionner. À percuter, ça, j'en ai plein. Non, alors pour aller sur une note un peu plus poétique, moi j'ai trouvé le film très beau. Je sais que c'est un peu classique de dire c'est un beau film. J'y allais avec les a priori que Simon nous avait délivrés à Cannes, donc j'y allais à reculons, c'est-à-dire que je me disais ok, je vais me faire chier pendant 2 heures. Et c'est vraiment bien parce qu'on a un lexique autour du caca qui est très rigolo dans cette émission. J'y allais vraiment en me disant ok, en ce moment j'ai un traitement qui me tape sur la gueule, j'arrive jamais à rester éveillée devant un film. Moi, voir un monsieur qui parle pas et qui nettoie des chiottes, en fait ça va m'ennuyer. Et étrangement, J'ai été captivée par les petits détails du film, par les choix de cadre, par la lumière, par la douceur dans son visage et par le fait qu'il a cette Wim Wenders. Il fait quelque chose que j'aime beaucoup scénaristiquement dans le film, qui est, je vais prendre un tout petit passage de vie sans début et sans fin. C'est-à-dire que on prend un instant A d'une vie et on nous donne très peu d'éléments sur ce qui vient avant et ce qui vient après. Notamment, c'est dans la bande-annonce, on voit qu'il y a sa nièce qui vient chez lui. On comprend qu'il a une relation très compliquée avec sa famille, avec son père, avec sa sœur, que c'est le seul qui apparemment n'aurait pas une distinction sociale suffisante pour être accepté. Mais en fait, on ne l'explique pas plus que ça, parce que ça fait partie de sa vie, il faut qu'on accepte ce personnage comme ça. Et donc, ça laisse au spectateur toute une place pour imaginer quelle a été la vie de cet homme pour qu'il se retrouve là. Est-ce que... Moi, je me suis même demandé, en fait, ça a fait travailler mon imagination. Je me suis dit, peut-être que d'une certaine manière, il s'est puni, ou peut-être qu'il avait une autre vie et qu'elle lui convenait pas du tout et qu'il a voulu revenir à cette espèce de minimalisme essentialiste. Par contre, et je vais mettre mon tout petit bémol qui m'a pas du tout gênée pendant le film, parce qu'encore une fois, j'ai été charmée du début à la fin, je trouve que le choix du métier est pas le bon. Et je sais que ça peut paraître énorme parce que c'est quand même le cœur du scénario, mais c'est un homme qui est fasciné par les plantes, et si on voulait montrer une espèce de non-ascension sociale complète, on pouvait le voir par exemple jardinier sur des lieux publics, on pouvait le voir balayeur de feuilles, en fait il y avait plein de métiers qui auraient eu la même caractérisation sociétale, mais sans avoir au final un travail qui n'a aucun rapport avec le reste de sa vie et qui est juste là pour être très symbolique. Donc ça, c'est un petit peu mon bémol qui ne m'a pas du tout gênée pendant le visionnage, cependant.
Quel serait, selon toi, Alexis, l'accréantement de ce film ?
Ding, ding, ding. Il va falloir m'expliquer ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas. Quand tu auras fini de mourir.
Je suis vraiment désolé pour les tout. Accréantement, c'est tout simplement la promesse. La promesse.
Ok, très bien.
C'est vraiment juste un mot compliqué pour être compliqué.
Oui, c'est ça. Ouais. Écoute, j'y allais un peu à reculons, comme Sophie, parce que Simon avait fait une critique assez virulente à Cannes, comme il l'a fait ce soir. Et en fait, je suis plutôt agréablement surpris par le film. Il a, malgré tout, des faiblesses, et j'y reviendrai. Je trouve que ce qui m'intéresse, moi, déjà, dans le film, c'est que c'est un film qui va travailler une sorte de naturalisme, d'approche naturaliste et de sobriété dans la mise en scène. Et c'est une sobriété qui cache un peu son jeu quand même, parce qu'on reconnaît à bien des moments dans le film le talent de compositeur d'image de Wim Wenders, qui est effectivement beaucoup plus en retrait que sur des films précédents comme Paris, Texas, comme Les Ailes du Désir, où là, pour le coup, il y avait une vraie volonté d'imposer un style visuel très marqué, un jeu sur le noir et blanc dans Les Ailes du Désir, et au contraire, un jeu sur les couleurs très fortes dans Paris, Texas, en tout cas dans certaines séquences clés de Paris, Texas. Là, on est vraiment dans une approche beaucoup plus effacée, beaucoup plus en retenue. Néanmoins, moi, je prends pas mal de plaisir devant le film, parce que je trouve que c'est très bien filmé, je trouve que c'est plutôt bien raconté. On sent l'influence, et on en avait parlé dans cette émission, on sent l'influence de Chantal Akerman et de son Jeanne Dielman dans la répétition des séquences, la répétition des mêmes gestes, le fait que le personnage s'est construit une routine extrêmement millimétrée qui repose sur des petits riens, mais des petits riens qui ont un sens énorme pour lui. Ça, c'est quelque chose qui me touche assez. Et quelque part, moi, je trouve que là où le film est intelligent, c'est qu'il nous laisse croire pendant un long moment qu'on est face à un personnage qui est content de son sort. Et c'est là où le film peut être politiquement un petit peu compliqué, parce que ce mec-là, c'est quand même un prolétaire, il n'a pas beaucoup d'argent, il a un petit appart, il a un job merdique, sans mauvais jeu de mots. On pourrait se dire, bon, bah, normalement, ce personnage-là, il est malheureux. Ah ben non, en fait, il est heureux, donc bah, peut-être qu'on peut être heureux même quand on est pauvre, même quand on n'a pas d'amis, même quand on a un travail pourri. Sauf qu'en fait, il y a plein de moments dans le film où on va légèrement décrocher de ce point de vue-là, de cette affirmation-là, et où Wim Wenders va sous-entendre, avec beaucoup de subtilité, mais quand même de manière assez appuyée, que potentiellement, ce personnage-là, en fait, il n'est pas heureux, il est au dernier degré de l'aliénation. Il est tellement persuadé que le monde lui offrira jamais plus que ce qu'il a, qu'il en est venu à adorer tous les éléments de sa vie, quand bien même, en fait, cette vie, au fond, ne lui convient pas. Et je trouve que c'est une belle idée. Par contre, il y a un vrai problème, et moi, je suis plutôt un spectateur, et a fortiori un critique assez terre-à-terre, malgré tout. J'aime bien quand le cinéma a un ancrage matériel dans son sujet. Ça me pose un vrai problème que le mec passe tout le film à nettoyer des toilettes qui sont parfaitement propres. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, déjà, le mec nettoie les toilettes. Alors, je sais que la population japonaise est réputée à l'international pour être une population très à cheval sur l'hygiène. C'est un peu un cliché, mais comme dans tous les clichés, il y a une part de vérité. Hein. Tout comme, oui, il y a des Français qui ne sont pas aimables et qui puent. C'est une vérité.
C'est pas très sympa, j'allais dire. Ouais.
Mais le fait est que sur 30 millions de Tokyoïtes, je suis sûr et certain qu'il y en a qui sont vraiment crades. Et s'il y en a bien un dans cette ville qui voit ce côté crado-là, bah c'est bien le personnage principal. Or, effectivement, le film est épuré, aseptisé, toujours très propre. Et il y a un moment où... C'est con, hein, c'est la première réplique du personnage de son jeune subalterne qui fait le même métier que lui, qui arrive dans le film. Et le premier truc qu'il dit, c'est « Ah, je déteste les services du matin, il y a toujours du vomi partout. » Bah, où est le vomi, en fait? Où sont les déjections? Où est l'organique? Où est la saleté? Parce que si on veut aller au bout de l'idée et me dire bah, « Ce personnage-là, il a peut-être quand même réussi à trouver un petit peu de poésie, ou bien, interprétation inverse, il se persuade qu'il y a de la poésie dans sa vie alors qu'en fait, il n'y en a pas », eh ben, il va falloir confronter ce personnage-là à la réalité matérielle la plus crade et la plus difficile de son travail, et Wenders n'y va pas, peut-être par excès de pudeur, mais pour moi, c'est une faute esthétique importante quand même.
Pourquoi les toilettes d'ailleurs? Parce que Wim Wenders a évidemment répondu à cette question. Il dit qu'il a apprécié, parce qu'il avait envie depuis très longtemps de faire des films sur le Japon, il pensait d'ailleurs plutôt à des courts-métrages. On lui a proposé de venir faire des courts-métrages, il a fait finalement ce long-métrage, et il a apprécié les photos de ces merveilles d'architecture qui ressemble selon lui davantage à des temples de l'assainissement qu'à des toilettes classiques.
C'est vrai que les toilettes sont très très beaux dans le film.
Ah oui, non,
ils ont des vitres qui deviennent transparentes puis plus transparentes, genre opaques.
Oui, c'est ça. Bah, quand tu verrouilles la porte, elle devient opaque. Quand tu la déverrouilles, elle devient transparente. Mais ça, c'est un truc typiquement japonais, une espèce de technologie ultra puis, poussée dans tous les domaines.
Ils ont des jets pour leur nettoyer. Pardon.
Oui, c'est ça.
Simon, sur l'opinion de tes deux camarades.
Je voudrais revenir justement sur le dernier point qu'a développé Alexis, qui me semble fondamental. Moi, je ne récuse pas, je n'ai rien contre le fait qu'on se dise « Tiens, moi je vais vous montrer comment cette personne qui vit dans la plus terrible des conditions peut réussir à s'en extraire par son rapport au monde, par son rapport à la poésie, et bien vivre sa condition et donc la dépasser. » J'ai aucun problème avec ça, je trouve ça même très intéressant, mais il me semble que si on veut raconter ça, bah effectivement, il faut prendre à charge le réel. C'est-à-dire que moi, je veux bien croire qu'un type qui nettoie les excréments de ses contemporains tous les jours peut tout à fait s'extraire de la réalité matérielle de tout ça, ou même de la réalité sociale. Parce que quand bien même les chiottes japonaises seraient toutes, de tout temps, incroyablement propres, il n'empêche que nettoyer les chiottes, ça n'est pas un métier honorifique, ça n'est pas un métier à capital symbolique. Et que quand bien même elles seraient très propres, ou bien plus propres qu'ailleurs au Japon, celui qui les nettoie n'en vit pas moins un métier du bas de l'échelle sociale et quelqu'un qui est oppressé et opprimé à plein d'endroits. Bon, bah à partir du moment où on ne représente pas ça, sa transcendance n'existe pas, pour moi. Et donc on ne raconte...
Je suis un peu d'accord avec toi pour le coup.
Et donc on ne raconte plus l'histoire de quelqu'un de comment, pourquoi, et de rentrons dans le quotidien de cet homme qui arrive à trouver la beauté dans ce quotidien qui sent plutôt le caca. Maintenant, pour moi, on se dit genre, c'est beau les petites gens quand même. C'est joli.
Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, déjà, on sait pas vraiment qui il est. On le caractérise beaucoup par ça, mais pour moi, le rapport notamment sous-entendu avec sa sœur fait que c'est pas forcément quelqu'un qui a toujours été à cette place sociale-là et qui potentiellement a choisi de revenir, en tout cas, à cette espèce de d'essentialisme. Et donc, qui... En fait, pour moi, ça ne parle pas de regarder comment les petites gens travaillent bien. Pour moi, c'est juste ce personnage-là, qui a ce parcours-là. Pour moi, il ne fait pas un discours social large. Il a juste choisi de présenter un mec qui fait ce boulot-là à cet instant T. On ne sait pas ce qu'il fait avant, on ne sait pas ce qu'il fera après, parce que c'est quelqu'un qui est présenté comme cultivé, comme venant d'une famille aisée, mais qui, là, depuis quelques années, fait ce métier-là et juste s'extasie devant des choses aussi très simples. Donc, Dieu sait ce qu'il a fait avant. Si ça se trouve, c'était un méga trader et qui a un jour tout foiré et qui s'est retrouvé là et peut-être même qui se punit et qui réapprend à regarder le monde.
Mais alors, justement, j'ai aussi un problème avec la manière dont le film prend en charge ou ne prend pas en charge complètement le passé, le parcours de ce personnage-là. C'est que, effectivement, tu vois, si on creusait un petit peu plus, je ne te dis pas de passer une demi-heure dessus, hein, mais si on me donnait des éléments un petit peu plus concrets, matériels, encore une fois, sur pourquoi il est là et comment il en est venu là, je pourrais me dire, effectivement, le film ne me parle que de ce personnage-là et de son parcours à lui. Mais le fait de garder tout ça dans le flou, pour moi, c'est un peu genre, oui, c'est un peu le syndrome Amélie Poulain, mais fois 7 milliards. C'est-à-dire, c'est un peu... Et si derrière chaque petit vendeur de rôtisserie, il y avait un Jacques Prévert qui s'ignore? Non, il y a quelqu'un qui se lève à 4h du matin, qui galère, qui n'en peut plus, et qui te mettrait des grands coups de pied dans les gonades si tu pouvais arrêter de le regarder comme ça. Et non, j'exagère, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je ressens vraiment pas le film comme ça, du fait justement de laisser tant de choses à l'arrière-plan. Du coup, j'ai l'impression que c'est une espèce d'image d'Épinal qui se veut un peu générale et qui me met mal à l'aise.
Mais c'était cette question de laisser trop d'éléments à l'arrière-plan. Et de fait, je suis un peu d'accord avec toi, notamment sur la question vraiment crade du film, ou plutôt son absence de crade. Moi, ça m'a rappelé, pour le coup, cette faiblesse-là de Perfect Days m'a rappelé les faiblesses d'un film bien plus médiocre que celui-là, qui était Les Olympiades de Jacques Audiard. Film qui devait quand même, à la base, être quasiment un semi-documentaire. L'idée de Jacques Audiard, c'était d'inclure des personnages de fiction qui sont incarnés par des acteurs dans la population du 13e arrondissement, du quartier des Olympiades, et filmer cette population telle qu'elle est. Le truc, c'est que comme il a tourné le film en plein Covid et que les gens portaient des masques et qu'ils trouvaient que les masques, c'était moche, bah, il a fait exactement l'inverse. Il a viré tous les figurants du film, il n'a gardé que ses personnages. On a l'impression que le quartier des Olympiades dans le film est un quartier fantôme. Et il y a une espèce de regard un petit peu hautain sur la population qui se traduit par cet effet de mise en scène, parce qu'on comprend bien que, en fait, Audiard, il a envie de filmer le peuple à une condition quand même, bah c'est que le peuple, il corresponde à sa charte esthétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de méprisable. C'est pas tout à fait le cas avec Wim Wenders, mais je pense qu'il y a quand même chez Wenders une certaine timidité à aller filmer de la merde, pour parler crûment, qui le dessert et qui le place un petit peu trop en hauteur par rapport à son personnage.
Mais je suis vraiment pas d'accord avec vous, mais je comprends qu'on puisse ressentir le film comme ça, parce qu'en fait, toutes vos remarques, je les vois aussi, je les vois à l'écran. Et je pense que je m'étais tellement préparée à voir ça que j'ai trouvé, on n'a pas parlé notamment du rapport à la musique que je trouve très joli, ce rapport aux cassettes, le fait qu'on n'explique jamais pourquoi il est aussi fan de cette période musicale-là, ce que ça représente.
De quelle période musicale ?
C'est notamment la rock, pop rock des années...
60-70, ça peut être chose. Il y a du Patti Smith, il y a les Animals, il y a du Velvet Underground et du Lou Reed. Ouais. Il y a pas mal de musique de cette époque-là, ouais.
Qu'il écoute sur des cassettes d'époque dans son vieux van, et ça a l'air toujours d'avoir une espèce de teinte de sa journée, mais on n'explique jamais pourquoi. On sait juste que ça pourrait et ça peut le sortir d'une certaine panade financière, en tout cas pour un instant s'il a besoin, parce que on va donner de la valeur à ses objets alors que ça peut ne pas en avoir aussi de la valeur financière. Je veux dire, une cassette, ça vaut, à un moment ils disent celle-là elle vaut 200 $, quoi. Et c'est beaucoup, 200 $, quand tu gagnes rien. Et je trouve qu'en fait, le film est fait avec beaucoup de minutie. Et moi, cette pudeur, genre, je l'entends, hein, ouais, il n'y a pas de caca, il n'y a pas de pipi. À un moment, il y a une vieille tache qu'on voit avec une espèce de truc de dentiste, de petit miroir, là, pour voir s'il y a des trucs en dessous. Il y a une petite tache de vomi. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin. Enfin, moi, on me dit qu'un mec, il récure les chiottes du matin au soir, je comprends son métier. J'ai pas besoin de.
Ouais, mais.
J'ai pas besoin de le voir. Enfin, c'est bon, c'est sous-entendu. Enfin, je suis. Oui, mais moi, en fait,
oui, mais le truc,
un
c'est
film
que...
sur la poésie, j'ai pas besoin de voir du caca sur une cuvette, quoi.
Un film qui me raconte le quotidien d'un personnage dont le métier est dégoûtant, si moi, en tant que spectateur, je ne suis pas dégoûté, je suis pas avec le personnage.
Mais c'était
tu
pas
vois.
Ça le sujet. Et c'est pour ça, c'est là que.
Mais c'est son sujet, il passe une heure sur deux heures dans les chiottes à les nettoyer, donc c'est forcément son sujet.
Mais si
ou c'est
sujet,
un de ses sujets.
Oui, mais si le sujet, c'est pas les mains dans la crasse. Si le sujet, c'est genre autre chose que genre de le voir récurer du pipi. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a un truc, s'il a choisi de pas le montrer, c'est qu'il y a une raison, tu vois.
Bah, oui, mais qui est peut-être une pudeur mal placée, en fait. C'est ça l'argument
de Simon. Avant, vous le ressentez comme
Simon,
ça.
Mais...
Moi, c'est bon, j'ai compris ce qu'il faisait de sa journée. J'ai pas besoin de le voir récurer du caca, tu vois. Genre, désolé, ça fait beaucoup de fois le mot caca.
Mais il y a
un film qui est super poétique
et
super
y a aussi
léger.
Du pipi,
et du vomi. Et il y a plein de substances genre, qui sortent du corps et qui ont une odeur très discutable.
J'adore votre conversation. Je vous aurais compris, je n'ai pas vu le film, mais je vraiment. Puis surtout, on vient de dîner, donc c'est vraiment un régal de vous entendre.
Non, mais il y a un truc quand même que là où je trouve que Simon t'es un petit peu dur avec le film, c'est que tu as commencé ton argumentaire en disant que c'était un film assez cliché sur le Japon. Il y a quand même un truc que le film fait qui pour le coup va totalement à l'encontre des clichés qu'on a sur le Japon. Quand vous êtes un cinéaste pas inspiré, que vous avez envie de filmer le Japon et que du coup vous n'avez pas d'idée, bah en général vous vous référez aux éléments les plus évocateurs du Japon, à commencer par la ville de Tokyo, bon, c'est là que se déroule le film, et a fortiori le quartier de Shibuya avec ce fameux passage piéton gigantesque où circulent tous les jours des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, voire plus. Bon, le fait est que le personnage joué par Koji Yakusho, c'est ça, si j'écorche pas son nom, travaille dans le quartier de Shibuya. Sur son uniforme, il y a marqué Tokyo Shibuya. On verra jamais le passage piéton, et à vrai dire, on ne verra jamais aucun monument ou bâtiment emblématique de Tokyo, ou alors de très loin. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé dans le découpage et le montage du film, c'est que j'ai passé tout le film en ayant le sentiment de ne jamais rentrer dans la ville, alors qu'en fait, j'en suis jamais sorti. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est qu'on a un double mouvement qui est que le personnage, il est à la fois complètement prisonnier de cet environnement urbain, pardon, et en même temps, il n'en fait pas vraiment partie. Et la vie la plus exaltante et la plus riche et la plus épanouissante de la mégalopole Tokyo, eh ben, c'est pas sa vie à lui, il n'y a pas accès, il est en parallèle. Et ça, ça passe uniquement par le choix des décors, par le choix des plans, par le choix du montage, ce qui montre quand même que Wim Wenders, il a encore un œil de metteur en scène assez aiguisé.
C'est donc Perfect Days de Wim Wenders avec Koji Yakusho. Vous pouvez nous dire eh bien, si vous êtes plutôt vous pour nettoyer des chiottes publiques tous les jours ou si vous préférez rouler une pelle à Éric Zemmour tous les matins au réveil, le tout avec le sourire.
Les chiottes publiques, les chiottes publiques. Ceci est mon dernier mot, les chiottes
franchement,
publiques.
Franchement, c'est ton plus facile hein, que t'as fait pour l'instant.
Un peu facile, mais vous
ne répondez pas dans les commentaires, s'il vous plaît.
Je suis un peu malade, c'est pour ça. Ça me rappelle une histoire, c'est le point commun entre la cuvette des toilettes et les dates d'anniversaire.
Oh là, bonne question.
Comment se soit-tu ?
Non. Je les rate globalement à chaque fois. Que se passe-t-il lorsqu'une mère célibataire... Que se passe-t-il lorsqu'une mère célibataire tendue après la guerre pour avoir été mise enceinte par un soldat allemand et un jeune étudiant homosexuel qui cache son attirance pour les hommes se rencontrent, se plaisent et s'attachent l'un à l'autre ? Il se passe qu'est venu le temps d'aimer.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
Je l'ai pas vu partir. Merci.
Sois sage.
Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un.
Le temps d'aimer de Catel Quilivéré avec Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste. Pareil, c'est un film que certaines et certains d'entre nous avaient pu voir à Cannes. Et Sophie, toi, c'est un gros coup de cœur.
Oui, pour moi, c'était impossible de ne pas voir le nouveau Catel Quilivéré à Cannes. Je vous l'avais déjà dit à l'époque, c'était une de mes grosses attentes parce que Catel Quilivéré, c'est une réalisatrice que je suis depuis longtemps, en tout cas depuis son deuxième long métrage, Suzanne, qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup séduit parce que je trouve qu'elle avait une fougue d'écriture que j'avais retrouvée dans son film d'après, Réparer les vivants, qui était beaucoup plus solide, beaucoup plus maîtrisée, mais qui avait toujours cette espèce d'intensité. Elle a une rage dans ses personnages que je trouve fabuleuse. Et donc, le temps d'aimer, en plus, avec ce casting que j'adore, Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste, ça avait tout pour me plaire. Et en effet, ça m'a beaucoup plu. Je vais commencer par les défauts, parce qu'après, je sais que les garçons vont un petit peu appuyer dessus. Et je tiens à dire que... Il y a un vrai défaut dans le film qui va avec sa fougue, c'est que le film dure sur énormément d'années, sur plusieurs dizaines d'années, et qu'il y a un vieillissement des personnages que je trouve raté. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix de ne pas changer de comédien pour jouer Anaïs Demoustier à 19 ans ou à 50, et c'était très casse-gueule, et en effet, ça s'est cassé la gueule, pareil pour les autres personnages. Donc ça, c'est mon point faible. Cependant, je trouve que Catel Quilivéré, elle a une approche très romanesque du cinéma. C'est-à-dire qu'elle choisit de faire des espèces de récits fleuves qui vont s'étendre. Et quand je sors d'un film, j'ai l'impression qu'elle a réussi, au travers d'intentions, de gestes, de me raconter des personnages comme si j'avais lu 600 pages sur eux. Et je trouve que cette histoire d'amour, elle est très belle. Et je pense que donc on va faire un premier tour de table, mais je suis très touchée par la virtuosité de son scénar. Je trouve qu'il y a quelque chose de fou et presque de très grand dans cette volonté de faire autant avec ses personnages. Et ça, je le sauve au-delà de tout, peu importe les ratés qu'il y a dans le film, je sauve ça.
Simon, est-ce que tu es sensible à cette grande fresque historique et intime qui est un classique du cinéma, hein, de prendre des personnages, de les faire traverser l'histoire et de traverser avec eux leur intimité?
Moi, je suis dans une position un peu particulière parce que...
Non, tu es assis là.
Oui, mais tu... Bon, ok, tu m'as eu. je suis dans une position un peu particulière parce que je ne peux pas ne pas recommander le film, parce que le film me divertit, parce que je passe un moment que je peux difficilement ne pas qualifier de bon moment. Néanmoins, c'est un peu à son détriment parce que je trouve qu'absolument tout est raté. Je trouve que tout est trop grand, trop gros, trop romanesque. J'ai vraiment l'impression de voir une parodie, en fait. Moi, je suis vraiment dans une espèce de pastiche totalement kitsch. J'ai l'impression d'être devant Le cœur à ses raisons, quasiment, quoi. Mais je trouve le film ridicule de bout en bout, mais je suis très sensible à sa note d'intention, à ce qu'il veut faire. Je vois totalement là où elle voudrait aller, dans cette espèce de grande fresque, de grand romanesque, sauf qu'il manque une heure à son film pour qu'elle puisse le faire. Donc comme elle y va toujours à marche forcée, qu'elle essaye en plus de faire jouer ses comédiens dans des registres qui ne me semblent pas être leur registre habituel, c'est intéressant, mais c'est compliqué à faire dans la durée, dans le temps de durée du film. Je trouve que l'ouverture comme la conclusion sont pas loin d'être assez hilarant, quoi. Non, vraiment, pour moi, le film est une espèce d'immense plantade totale, mais que je trouve très divertissante. Donc voilà, je vais pas, j'ai aucune envie de me moquer ou d'aller en faire plus, machin. Je pense que je vois ce qui vous plaît dedans. Moi, j'ai l'impression qu'il rate ce qu'il entreprend, et donc du coup, je vois une espèce de catastrophe ferroviaire au ralenti. Mais je suis très sensible à ce qu'il veut faire, à ce qu'il essaye de faire. Et à ce qu'il voudrait tirer de ces personnages et de cette fresque-là. Mais j'ai quasiment l'impression de voir un épisode de Benny Hill en accéléré avec des rires enregistrés, quoi.
On comprend pas très bien pourquoi, mais pourquoi pas.
Parce que tout est ridicule, grotesque, exagéré, passablement mal écrit et caricatural.
Alexis.
Moi c'est pas ma came du tout, et en fait je partais un peu perdant avec ce film-là, parce que c'était déjà l'impression que j'avais eue avec Suzanne, son deuxième long métrage, sachant que je n'ai pas vu Réparer des vivants, mais j'avais le sentiment déjà qu'en fait, Katel Quillivéré est quand même beaucoup plus une scénariste qu'une metteuse en scène, enfin qu'une cinéaste, et je ressens ça à nouveau devant Le Temps d'aimer, qui est un film que je trouve globalement, parce qu'il y a quelques petits partis pris esthétiques assez radicaux et assez assumés, que je trouve pas toujours à propos, mais au moins c'est les vrais partis pris de cinéaste. Il y en a pas beaucoup dans le film, il y en a quelques-uns, mais je trouve que globalement on est sur un film assez académique, pour ne pas dire assez rigide, et je voilà, moi je trouve dommage que cette histoire-là, que pour le coup, je suis pas aussi sévère que Simon, je trouve relativement bien construite, je trouve dommage que cette histoire-là soit pas incarnée par de la mise en scène, quoi. J'ai l'impression que son objectif premier, c'est filmer du scénario pour faire avancer l'intrigue, et puis si jamais on peut glisser ici et là un plan intéressant, on le fait, mais c'est pas la priorité, alors que pour moi c'est la priorité du métier de cinéaste, c'est d'incarner le récit visuellement, puisque du coup c'est le scénario qui est le cœur du film. Penchons-nous un peu dessus. Moi, je trouve effectivement plutôt bien construit. Je trouve que les personnages principaux, donc Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier, enfin les personnages joués par Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste, sont plutôt globalement assez bien caractérisés. J'ai quand même quelques reproches à faire à l'écriture que je trouve par instant un peu trop schématique et un peu trop automatique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je sais que la métaphore n'est pas forcément parlante pour tout le monde, mais il y a des moments où je sens la main du scénariste derrière qui est en train de dérouler le fil et qui est en train de poser des situations pour que les personnages réagissent, fassent quelque chose et que l'histoire puisse continuer. Et voilà, c'est une écriture un peu mécanique qui ne me parle pas beaucoup. Et puis, troisième problème, tout aussi rédhibitoire que la question de la mise en scène, mais Sophie l'a soulevé parce qu'on ne peut pas ignorer ce problème-là. Le film se déroule sur, à vue de pif, 4 décennies, ce qui est quand même pas rien. Et on a l'impression que les personnages ne vieillissent pas, ce que je ne m'explique pas. Honnêtement, je ne me l'explique pas, parce qu'on aurait très bien pu accepter un changement de casting en milieu de parcours, on aurait très bien pu accepter un maquillage plus poussé, plus audacieux pour vieillir les comédiens. Rien de tout ça n'est tenté, le grand max qu'on ait, c'est quelques petits traits de make-up par-ci par-là, et puis un petit peu de bombe dans les cheveux de Vincent Lacoste pour lui blanchir les racines. Ça ne fait pas sens, en fait. Et moi, je passe tout le film à me demander pourquoi ces personnages-là sont immaculés, pourquoi ils ont l'air d'être complètement hors du temps, alors qu'en plus, on est sur un film historique qui prend le pouls de l'histoire et qui suit un personnage traumatisé par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui, au fil du temps et des décennies, va essayer petit à petit de reprendre le contrôle sur sa vie et de faire le deuil de son passé. Quand on est à ce point-là dans l'histoire, c'est quand même con de ne pas vouloir assumer du tout le passage du temps. C'est quelque chose que je ne m'explique pas.
Oui, cette question du vieillissement est une véritable question, et elle est tellement flagrante que moi, j'ai du mal à ne pas y voir une intention. Parce que, effectivement, littéralement, il n'y a quasiment, pour ainsi dire, pas de maquillage. C'est-à-dire que les personnages ne vieillissent pas. Donc elle choisit de les faire évoluer physiquement, de faire évoluer leur look, de faire évoluer les lunettes de Vincent Lacoste, de faire évoluer les coupes de cheveux d'Anaïs de Moustier, donc de les faire évoluer dans le temps sans les transformer physiquement. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est une intentionnalité, parce que vraiment, il n'y a pas de volonté de les grimer, de mettre sur leur corps l'empreinte du temps. Est-ce que c'est pour dire que finalement ce couple qui ne s'entend pas, ou qui se cherche, qui cherche son désir et qui passe son temps à se tourner autour, gardent une forme de pureté dans le lien qu'ils ont l'un à l'autre, que ce temps d'aimer, c'est le temps de leur couple, et que ce temps d'aimer-là, le temps n'a pas d'emprise sur ces sentiments. Je ne sais pas, ensuite, on peut faire tourner la machine à interpréter autant qu'on veut, mais je pense, enfin, je ne peux pas imaginer que ça ne soit pas une intention.
Je pense que tu as raison, je pense que c'est une intention. Après, le souci, c'est qu'effectivement, on peut faire cette interprétation-là et se dire qu'il y a l'idée de... On veut souligner une espèce d'éternité dans la relation qu'ont ces deux personnages-là, et on va le souligner en n'altérant pas leur physique.
Moi, je suis d'accord avec ça, en fait. Et du coup, à un moment donné, ça me gêne un peu, et puis j'accepte.
Je suis d'accord en théorie. Je suis d'accord en théorie. Sur le papier, c'est une idée que je trouve même plutôt audacieuse et plutôt séduisante. Le souci, c'est que, de fait, et je ne dévoile évidemment rien des éléments de l'intrigue, hein, parce qu'en plus, le film est quand même assez dense en termes d'écriture, il se passe beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention de ne pas spoiler. Mais, de fait, la relation elle évolue et leur lien, il est pas toujours le même et leur caractérisation est pas toujours la même. Donc de fait,
mais leur attachement oui. reste.
Ah, il n'est pas le même. Non, ils sont toujours attachés, mais pas toujours pour les mêmes raisons.
Oui,
donc il y a des évolutions partout.
Mais
à ce compte-là, cette idée, elle est théoriquement intéressante à partir du moment où la relation est le seul truc du film qui n'évolue jamais. Or, de fait, elle évolue à plein d'endroits. Alors, du coup, ça me laisse très perplexe quand même.
Sans spoiler rien du tout, pour moi, le film parle de deux personnes qui ne se sentent pas à leur place. Mais jamais, à aucun moment, même quand il y a des espèces de petites bulles un petit peu d'apaisement, il y a toujours un élément qui vient leur dire qu'ils ne sont pas à leur place. Qui seront toujours rejetés. En fait, c'est deux personnes qui sont rejetées par tout le monde et qui, du coup, rejettent aussi les autres. C'est le cas du personnage d'Anaïs de Moustier par rapport à son fils, qui lui rappelle son passé, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, en fait, ce sont les deux seuls personnages qui peuvent se comprendre pour des raisons diverses, en fait. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve que le lien qu'ils ont, ces deux personnages, c'est... Je trouve qu'il y a une forme de pureté que je trouve... Mais moi, ça m'a bouleversée du début à la fin. C'est-à-dire que du moment de leur séduction jusqu'à la fin du film, je suis assez fascinée de voir ces deux âmes en peine qui ont réussi à créer un lien alors que tout les oppose littéralement et que eux sont opposés au monde en plus. Donc,
je suis assez d'accord avec Sophie sur ce coup-là. Je vous trouve effectivement assez dur parce que je trouve qu'il y a du Douglas Sirk là-dedans. Je trouve que cette grande.
C'est manifestement l'intention du film.
Ah, bah bien sûr, oui, même visuellement. Je veux dire, même dans le traitement de l'image, mise en scène, dans l'éclairage, si, il y a cette volonté-là en tout cas qui est affichée.
On est peut-être plus chez Fassbinder que chez Douglas Sirk.
Non, je trouve pas. Mais bon, bref, ensuite chacun ses références. Mais moi, j'aime vraiment bien le... Enfin, je suis assez sensible à cette forme-là parce que je trouve que ça peut être extrêmement raté, hein, cette fresque sentimentale qui traverse l'histoire. Moi, ça renvoie à des œuvres littéraires qui me passionnent, ça me renvoie à du Garcia Marquez, ça me renvoie à plein d'idées, ça me renvoie à l'amour au temps du choléra, ça me renvoie à plein d'univers, et je trouve qu'elle est très juste. Je trouve que ces deux comédiens sont incroyables, vraiment tous les deux, ils sont incroyables. Anaïs de Moustier, qu'on avait mis de côté ou qui était passé un peu inaperçu bien trop tôt, parce que quand elle ressort, je pense par exemple à Novembre. Dans Novembre, elle est remarquable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film. C'est une grande comédienne, Anaïs de Moustier.
Bah oui, mais elle n'a pas été mise de côté. Anaïs de Moustier, c'est la gigastar du cinéma d'auteur français, non?
Sans être une gigastar, elle a quand même une carrière tout à fait honorable.
Oui,
pas que dans le cinéma d'auteur français, parce que Novembre, c'est quand même une grosse production grand public. Hein,
J'avais l'impression qu'elle était un peu sortie des radars et qu'elle revient et qu'on se rend compte. Et dans plusieurs registres, hein, chez Dupieux, elle est à mourir de rire. Enfin, d'ailleurs, Lacoste et Dupieux étaient jouaient ensemble dans Fumer, Fait, Tousser.
Oui.
Je ne fume plus, mais je tousse. bref, je les trouve remarquables tous les deux. Je trouve que Lacoste, vraiment, dans ce rôle de grand dégingandé, sensible, intériorisé, enfin, vraiment, je suis emporté. En fait, moi, je me laisse emmener par cette locomotive émotionnelle et cette locomotive narrative, parce que je trouve que la mise en scène est au niveau. Je ne dirais pas que c'est un grand film, mais c'est un beau film, et c'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir parce que...
Je le trouve très accessible, ouais, en fait.
Ouais, voilà.
je trouve que c'est
une très belle chronique humaine, quoi.
Je trouve que c'est un film qui a sa place dans ce que je vais appeler le cinéma d'auteur populaire français. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film que je pourrais conseiller à ma mère, à ma grand-mère. Il y a quelque chose de très rassembleur, en fait, dans ce film, qu'on va picoter là avec nos espèces de regards critiques, alors que... On oublie que les gens vont aussi au cinéma pour voir des histoires et qu'il y a plein de gens qui vont pas être aussi critiques que nous, et que cette histoire, elle a le mérite d'être assez unique dans le cinéma, dans le paysage français actuel, et que sur un film historique et tout ça, moi j'ai rarement vu ce genre d'attachement entre deux personnes. Et je trouve que ça, c'est très beau.
Et puis pour raconter ce que ce film raconte aussi sur, effectivement, cette impossibilité de ces deux êtres individuellement à faire société.
Oui, c'est ça.
À fonctionner socialement et à réussir finalement à se retrouver, quelle que soit l'évolution d'ailleurs de leur relation, dans leur propre relation qui leur permet finalement de s'interfacer au monde, alors qu'individuellement ils en seraient incapables. Et ça, je trouve ça quand même vraiment très très joli, quoi.
Oui. Bon, en fait, non, mais je trouve, encore une fois, le film joli sur le papier. Moi, c'est la transformation qui fonctionne pas trop. Et pour en revenir à la question que je voulais poser, moi, il y a un élément du film qui m'a beaucoup dérangé. Je vais avoir du mal à expliquer encore précisément pourquoi, parce que j'ai vu le film hier au moment où on enregistre et c'est encore assez frais dans ma tête. Le fait est que le film s'ouvre quand même d'une manière assez radicale et assez brutale par des images d'archives authentiques, hein, de véritables images de femmes tondues. enfin tondu, humilié, battu, montré comme des bêtes de foire, parce qu'il faut rappeler qu'on leur a pas juste coupé les cheveux dans l'intimité de leur salon, hein, non, on les a exhibés comme des monstres, c'est ça la réalité.
Des poules aux boches.
Des poules aux boches, exactement, c'est ce qui a marqué sur un camion dans les images d'archives. Donc c'est des images, je préfère prévenir pour les gens qui n'ont pas encore vu le film et qui sont un peu sensibles, c'est des images qui sont très dures.
Moi, ou les jeunes spectateurs qui ne connaîtraient pas ces images-là, voilà. Parce que je suis pas sûr que dans les plus jeunes spectateurs, tout le monde soit familier de
certains. On a peut-être vu des photos dans les livres scolaires, on n'a pas tous vu les images d'archives, voilà. Ça c'est sûr. Et se les prendre sur la tronche d'entrée de jeu alors que le film ne vous a pas prévenu, parce qu'il n'y a aucune de ces images qui est dans la bande-annonce, c'est un peu hardcore, donc je préfère le dire. C'est un choix qui m'a fait me poser beaucoup de questions. À la réflexion, je pense que c'est peut-être le geste de cinéaste le plus intéressant du film, parce qu'il y a cette idée de « je confronte d'entrée de jeu mon spectateur à la réalité dans laquelle j'ai implanté ma fiction ».
Elle en parle, hein, Katel Kiveré. Elle explique ça. Elle dit qu'elle a consulté justement beaucoup d'archives, qu'elle s'est confrontée à ces images-là, qu'elle a pris tout ce qu'elle avait trouvé d'ailleurs, hein, dans les archives françaises, britanniques, américaines, etc. Et parce qu'au début, elle voulait tourner ces scènes-là et elle se rendait compte que les tourner, même si elle en tourne une toute petite partie, et si elle interface ces images-là,
c'est mon problème.
La fiction, elle a voulu utiliser parce qu'elle se disait, je n'arriverai jamais à retransmettre la violence de ces images par leur reconstitution.
Je pense vraiment, encore une fois, une décision de cinéaste très intelligente. Puisque c'est une décision. Je pense que c'est un geste qui est hyper radical. Et effectivement, moi, j'apprécie vraiment l'humilité d'une cinéaste qui se dit, quelles que soient les images de fiction que je fabrique, elles sont inférieures au réel, donc je dois m'en remettre aux images du réel. Je trouve que c'est un geste de cinéaste qui est très sain. Le problème, et tu l'as dit, Nicolas, c'est qu'elle n'a pas véritablement fait ça. Parce qu'il y a, suite à ce montage d'images d'archives, il y a une séquence, alors attention, c'est une séquence courte, on va encore dire que je pinaille, mais pour moi c'est important, qui doit durer montre en main 2 minutes grand maximum.
Maximum.
Où on voit Anaïs de Moustier, le crâne tondu, qui se réfugie dans une maison dans un village, on comprend qu'elle a été humiliée publiquement par la foule, elle soulève son vêtement, on voit qu'elle est enceinte, et sur son ventre de femme enceinte, il y a une croix gammée qui a été dessinée au charbon certainement, et qu'elle essaye d'effacer. Le problème que j'ai avec cette scène-là, c'est pas le temps qu'elle existe, même si je trouve qu'elle n'est pas spécialement utile à la narration. On vient de voir des images de femmes tondues authentiques, et 15 minutes après, elle expliquera à Vincent Lacoste qu'elle a été tondue lors de l'épuration. Donc d'un point de vue strictement narratif, cette scène sert à rien, et d'un point de vue émotionnel, elle est de fait beaucoup moins forte que les images qu'on a vues juste avant. Donc je me pose la question de pourquoi elle est dans le film en définitive. Mais surtout, c'est la seule scène de fiction du film qui est en noir et blanc, et au format 1.33, donc le format traditionnel de l'époque.
Parce que je vais pinailler aussi, mais c'est le seul moment où elle dit « je passe de la grande histoire avec un grand H à la petite histoire avec un petit H ».
Oui, mais
c'est la transition, en fait.
Elle n'a pas besoin de transition, parce que cette séquence-là intervient après le carton-titre. Il n'y a pas besoin de transition. Au cinéma, on est capable d'accepter qu'entre une coupe sépare des choses qui sont radicalement différentes. Elle n'a pas besoin de cette transition, moi j'en suis intimement persuadé. Ce qui me pose problème, c'est que ces images d'archives qui n'étaient pas traitées comme un objet strictement cinématographique, qui étaient vraiment traitées comme un bloc de réel, à cause de ce prologue-là, ça devient juste une esthétique, ça devient une imagerie. Donc, on va faire une séquence avec une femme tondue, donc on va reprendre l'imagerie des archives des femmes tondues, on va faire du noir et blanc, on va faire du 1.33. Ça me pose question à un degré esthétique, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, ça me pose un problème éthique. Moi, quand j'ai vu ce plan-là, ça m'a dérangé, d'autant plus que je ne trouve pas ça particulièrement honnête de jouer, même si c'est pendant quelques secondes, sur la confusion. Parce qu'au début, moi, je vois cette séquence-là démarrer et j'ai le sentiment d'être face à nouveau à des images d'archives et je comprends a posteriori que je suis face à une séquence d'archives.
Tu
ne comprends pas tout de suite. Tu ne comprends pas tout de suite.
Est-ce que ta réaction, Alexis, ça n'est pas un peu une pudeur de gazelle devant le fait qu'on fasse ça avec des archives française, parce que je sais pas pour toi, mais par exemple, moi, bon, ça m'a pas choqué dans le film de Katel Kiveré, quand bien même j'ai des reproches à lui faire. Néanmoins, moi, tu vois, par exemple, ça me pose pas de questions quand Zemeckis fait ça avec la guerre du Vietnam bordel de cul.
Forrest Gump.
Et Forrest Gump, tu vois.
Ça me pose problème.
Ah ouais, ça te pose problème.
C'est les seules séquences qui me posent problème dans Forrest Gump. Hein,
d'accord, ok. Non, mais ok, moi, je pensais me piéger.
C'est pas une pudeur de gazelle, c'est que je viens de voir de la réalité et ensuite je vois une refabrication un peu maladroite et un peu à la va-vite de cette réalité-là. Bah, moi, ça me pose un petit problème.
D'accord.
Le film n'en avait pas besoin. Et je pense que si on avait eu juste les images de femmes tondues, le carton-titre, et hop, on est en couleur, c'est bon, on est dans la fiction, ça aurait été beaucoup plus clair. On aurait évité cette ambiguïté qui, moi, personnellement, m'a dérangé.
Peut-être un dernier mot. J'ai plutôt bien aimé ce film. Moi, je trouve que le point faible du film, c'est que je trouve qu'il y a un problème d'articulation entre leur histoire d'amour et l'histoire et le lien qu'elle fait dans la narration du rapport entre Anaïs de Moustier et son fils. Je trouve que là, vraiment, notamment, c'est vraiment, je trouve que là, le film fait des sautes, qu'il y a un problème, de coordination narrative qui fait que finalement, cette histoire du fils, elle est extrêmement bâclée du début à la fin. Je trouve que voilà, c'est pour moi le point faible principal du film, parce que pour le reste, je trouve ça séduisant. Simon, tu voulais réagir?
Oui, je voulais dire un petit mot pour ouvrir un petit peu le débat, la discussion sur tant cette question du traitement des femmes, des femmes accusées d'avoir été collaboratrices ou d'avoir entretenu des relations personnelles, intimes, sexuelles avec des Allemands, et la question des images d'archives qui est montée là dans le débat. Moi, j'aimerais recommander aux gens qui nous écoutent de regarder le court-métrage. Il est disponible en ligne gratuitement. Eût-elle été criminelle, de Jean-Gabriel Perriot. C'est un court-métrage de 9 minutes composé exclusivement d'authentiques images d'archives et que la caméra va filmer. Quand je veux dire va filmer, c'est qu'on ne les voit pas toujours plein cadre. Des fois, on zoome dedans, on recule. Et ce sont donc des images d'archives qui vont défiler sur toute la période de l'histoire européenne de 1938 jusqu'à 1944 et s'arrêter sur un moment précis de la libération en 1944. Et je pense que c'est un des travaux les plus saisissants, les plus intéressants et les plus accessibles du fait de sa gratuité et de sa durée sur la question du traitement des femmes au moment de l'épuration.
Tu peux redonner les références?
Eût-elle été criminelle, de Jean-Gabriel Perriot. Si vous tapez le titre dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez accéder au court-métrage qui est dispo et gratuit.
Un dernier mot peut-être pour dire qu'effectivement, De Moustier et Vincent Lacoste sont assez formidables. J'aime beaucoup cette parce que Lacoste a pas mal maigri aussi pour le rôle puisqu'il joue... Ouais. Le rôle d'un adulte qui souffre des séquelles de la polio. Et Anaïs de Moustier dit « Vincent aime énormément manger du saucisson et boire de l'alcool, donc il a fait beaucoup d'efforts.
» Non mais c'est très mignon, je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre eux. Et je crois que c'est aussi ça qui porte le film, c'est qu'il y a une espèce de à la fois de candeur et de dureté que le film va s'amuser à faire balancer. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à avoir des moments de légèreté, même des moments de sexualité, de tension. Et en fait, pour moi, c'est un film qui parle des différentes formes. C'est un film qui parle des différentes formes d'amour et je trouve que même on l'a dit hein, pour le coup la relation d'amour entre une mère et un fils qui en fait est une littéralement marquée au fer rouge sur son corps c'est assez intéressant. Ça aurait pu être plus intéressant mais ça avait été le cas sur Suzanne. Elle avait dû couper beaucoup de son film. Je pense que le film aurait mérité, comme l'avait dit Simon, d'être beaucoup plus long et j'imagine qu'il y a des choses qui ont été coupées parce que c'est un film qui, pour moi, vise un public très long, très large. Et donc, d'avoir un film qui fait plus de 2 heures, c'est déjà compliqué. Donc, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été amoindries à ce sujet-là pour se concentrer sur la relation entre Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Mais rien que pour cette relation-là, le film vaut le coup d'être... Mais rien que pour cette relation-là, le film vaut vraiment le coup d'être vu parce que c'est une très, 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 très belle histoire qui est très, très bien portée. Et je trouve que c'est important juste d'avoir une belle histoire bien interprétée. C'est déjà deux très bons éléments cinématographiques à visionner.
Le temps d'aimer de Katel Kiliveré avec Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Est-ce que vous êtes plutôt manger du saucisson ou boire de l'alcool? Bonjour Vincent Lacoste, si vous nous écoutez, vous pouvez nous répondre en commentaire. On va refaire un petit tour du côté des actus et d'Anatomie d'une chute, Sophie, puisque c'est ce qu'on pourrait appeler le début de la moisson des prix pré-Oscar.
En effet, Anatomie d'une chute a reçu, il y a quelques jours maintenant, 2 prix au Gotham Awards, notamment celui du meilleur film étranger et celui du meilleur scénario, donc pour Arthur Harari et Justine Triet. Justine Triet qui, pour moi, est en train de... non pas rouler sur le box-office français, pour en tout cas sa catégorie de film, mais en train de vraiment défoncer le box-office mondial, en fait, avec son film. C'est une vraie surprise. Donc, c'est sûr que j'entre sur cette news avec les 2 prix qui montrent qu'elle a bonne presse et qu'elle commence à avoir une vraie respectabilité vis-à-vis des institutions américaines, qui est très bon signe pour les Oscars. Pour rappel, le film n'a pas été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. C'est La Passion de Dodin Bouffant, dont on a dit le plus grand bien ici, mais qui a été sélectionné à la surprise générale. Et donc, le distributeur US, qui est Neon, a décidé de porter le film parce qu'on sent, pour le coup, une vraie volonté du distributeur de faire en sorte que le film soit nommé dans d'autres catégories que meilleur film étranger pour la cérémonie prochaine des Oscars. Ça avait déjà été le cas pour d'autres films, hein, ne vous imaginez pas que c'est une première. C'était notamment le cas de Parasite, qui n'est pas un film américain, qui avait réussi à avoir l'Oscar du meilleur film. Donc, c'est possible. il y a des films autres qu'américains qui peuvent arriver à ce genre de distinction sans être produits directement par les US. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, pour l'instant, déjà sur le sol américain, le film a engrangé plus près, en tout cas, de 3,5 millions de dollars, ce qui est quand même déjà un beau score, sachant qu'il a... Il est actuellement sur plus de 300 salles et c'est un tout début de distribution. Il peut avoir un effet progressif et c'est très beau. Le film a fini à près de quasiment 1 300 000 entrées en France. Mais surtout, il a un vrai rayonnement parce qu'il est distribué, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis. Mais en Italie, où il est déjà à la 5e place du box-office, en Allemagne, où il a fait 125 000 entrées, en Belgique, qui est assez logique, mais aussi en Grèce et en Russie. C'est-à-dire que le déploiement d'Anatomie d'une chute est absolument phénoménal. Et par phénoménal, j'entends un phénomène à part unique et un petit peu presque anormal. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude, nous, de voir un film français, même avec une Palme d'Or, avoir ce rayonnement depuis quelques années. Ça fait quand même du bien. Parce que, pour rappel, la dernière Palme d'Or gagnée par une Française... c'était Titane de Julia Ducournau qui n'avait pas du tout eu le même essor, même sur le terme des entrées françaises. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'avais raison de dire qu'Anatomie d'une chute allait gagner la Palme d'Or, c'est ma petite fierté. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis juste très heureuse. Ça me touche vraiment beaucoup qu'une femme française arrive à avoir ce degré de reconnaissance, que ce soit par les entrées, parce que ça veut dire que le public est au rendez-vous et qu'un film de plus de 2 heures qui se passe à côté de Grenoble, s'il est bien construit et qu'on y a apporté du soin, ça peut avoir de très bonnes conséquences sur les entrées. Et en plus, actuellement, le film est à plus de 90% bon sur Rotten Tomatoes. Et je sais que ça peut être débile, mais je veux dire qu'il y a un vrai consensus autour du film. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais je trouve que c'est un phénomène qui mérite d'être largement souligné.
Je ne vais pas rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, parce que je trouve que tu as été très complète sur la question. Et effectivement, le film est en train de prendre une très très belle place dans les box-office internationaux, et c'est une très bonne nouvelle. J'aimerais juste partager une petite anecdote qui est un peu rigolote. C'est que visiblement, à maintenant, c'est une règle, à partir du moment où Anatomie d'une chute est récompensée quelque part, il y a un discours politiquement engagé qui a lieu en simultané. Du coup, j'ai très très hâte de voir les Césars et les Oscars. Je pense que ça va être rigolo. Parce que vous le savez, donc Justine Triet avait fait un discours très à charge contre le gouvernement d'Emmanuel Macron lors du Festival de Cannes, après avoir reçu sa Palme d'Or, ce qui avait énervé notre très aimable Premier ministre Elisabeth Borne. C'est du sarcasme.
Et Thierry Frémaux.
Et Thierry Frémaux également. Mais bon, voilà. Mais le fait est que quand donc il y a eu la cérémonie des Gotham Awards, Robert De Niro est venu parler sur scène et il avait un discours qu'il avait communiqué aux organisateurs du festival. Qui était donc sur un prompteur, sauf que les 5 ou 6 premières minutes du discours, c'était juste une énorme diatribe contre Donald Trump. Et quand il a lu le prompteur, il a dit publiquement en plein discours, en fait, ils ont coupé toute la partie au début, donc si vous me permettez, je vais sortir mon téléphone portable. Il a sorti son téléphone et il a lu tout le discours et il a terminé en disant comment ose-t-il me couper la parole. Donc visiblement, à chaque fois que Anatomie d'une chute passe quelque part, il y a des remous politiques. Du coup, je suis curieux de voir la suite, de voir si ça se vérifiera surtout.
Transition, un petit mot de la fête des Cougours qui passionne nos amis d'outre-Kévin qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à s'y méprendre à une énorme paire de couilles.
Et pour finir, attention, je vais vous demander d'un petit peu d'attention si vous êtes en train de nous écouter, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mesdames et messieurs, puisque nous sommes, vous allez vous rendre compte, toujours très sensibles à vos attentes, à vos demandes, à vos désirs, et face à la déferlante de courriers que nous recevons globalement chaque semaine, pour nous témoigner de votre amour absolu et inconditionnel pour la rubrique finale, celle qui porte aussi haut les valeurs de la critique que Love Amour porte les valeurs de l'électro-gym sans effort. Non pas une, non pas deux, mais 3 vite fait mal fait, la critique bâclée en 30 secondes. Et on commence par Dumb Money de Craig Gillespie avec Paul Dano et c'est Simon qui s'y colle.
Dumb Money ou argent stupide. Alors, c'est un titre. Qu'est-ce qu'il désigne ? La Dumb Money pour les salauds de la City ou les vilains méchants traders et autres analystes financiers de Wall Street. C'est l'argent qui vient des particuliers qui investissent dans le système boursier ou des tout petits conseillers. Bref, du quidam qui, avec ses économies, voudrait essayer d'arrondir un peu les fins de mois ou de gagner de l'argent. Eh bien, tous ces gens-là qui ne bénéficient pas du même support technologique, de la même finesse de conseils et, d'indiscrétion sur le marché, ces professionnels-là de la finance, du trading, les considèrent donc comme de l'argent stupide qu'il convient de réussir à ratiboiser, qui de toute façon ne parviendront jamais à leur fin. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé en 2020-2021, quand un jeune analyste financier, pas du tout une des stars de Wall Street, a décidé de jouer contre Wall Street. Contre Wall Street, en essayant de soutenir l'action qu'il estimait très sous-évaluée, très dévaluée, de la chaîne de magasins GameStop. Il sera parvenu à ses fins, provoquant un raz-de-marée financier, littéralement l'implosion de au moins deux fonds de pension et hedge funds, et puis finalement, on va dire une réévaluation des méthodes de traders afin de regarder comment réagissent les gens et les valeurs sur les internets et tout ça. Alors, on est dans un film qui est dans le prolongement de comédie dramatique à vertu portée, soi-disant critique et plus ou moins documentaire, comme The Big Short par exemple, qui a eu plein de continuations et de clones ces dernières années. C'est un film dans lequel on va regarder, on va mettre un peu les mains dans le cambouis du moteur de l'économie américaine et dire c'est quand même pas joli joli tout ça. Heureusement, il y a des gens qui se laissent pas faire. Globalement, le film est très efficace. Il suit sans problème, sans mal. C'est assez bien rythmé. Gillespie, c'est pas un manchot à la caméra. Hein, donc, même si c'est pas un auteur, même s'il a pas un univers extrêmement marqué, il sait tout à fait jouer des ruptures de ton, trouver des moyens un peu adaptés, on va dire, de l'école d'Aaron Sorkin pour dynamiser des dialogues qui, sinon, ne sont quand même que des dialogues de gens qui parlent de vidéos qu'ils ont vues sur le web, d'actions qu'ils ont achetées ou qu'ils n'ont pas achetées. Donc, voilà, il y a un savoir-faire qui fait que si vous aimez ce sous-genre-là du cinéma américain, vous allez tout à fait vous y retrouver. C'est pas un film honteux du tout en la matière. Néanmoins, pour moi, il illustre quand même un vrai problème d'angle mort de tout ce sous-genre. C'est que c'est un sous-genre qui a l'impression, qui se croit, qui se veut, qui se vit extrêmement critique de Wall Street et du capitalisme, alors qu'en fait, à mon sens, c'est vraiment son idiot utile. C'est-à-dire qu'on passe le film à nous dire « Les gens de Wall Street, ils sont pas gentils. Hein. Mais toi, si tu veux, tu peux devenir un des gens de Wall Street. Comme ça, ce sera mieux. » Et ce qui en fait n'est jamais une remise en cause ou jamais une critique réelle du système qui est pointé du doigt. Ce qu'on critique, c'est le fait que tout le monde ne puisse pas y accéder. On n'est pas en train de dire « Mon Dieu, regardez, les salauds se goinfrent », on est en train de dire « C'est quand même dommage que je puisse pas être un salaud ». Et ça, pour moi, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Jusque dans les cartons finaux donc du long-métrage, où on nous dit le patron de ce gros fonds d'investissement, grâce au héros du film, il a perdu. Et les héros du film, grâce à tout ça, ils sont devenus riches. Ce qu'on ne te précise pas, c'est que l'action des protagonistes qu'on a suivis pendant ce récit, elle a eu exactement le même effet que si nos gros méchants avaient réussi à arriver à leur fin avec GameStop. C'est-à-dire qu'au final, ils ont quand même vendu leurs actions, donc ça s'est quand même écroulé, et ces gens-là ont gagné plein d'argent. Et c'est tout le problème qui nous vient, je l'avais déjà dit ici à ce micro, je crois, depuis Les Raisins de la Colère, enfin l'adaptation cinéma des Raisins de la Colère, où le cinéma s'évertue à nous dire, regardez, il y a bon et mauvais capitaliste, comme on pourrait dire, il y a bon et mauvais chasseur. Bon, le problème, c'est qu'il y a peut-être un bon et un mauvais chasseur, mais pour les perdrix, elles l'ont toujours dans le cul. Et donc voilà, c'est le problème du film, qui n'est pas mauvais, encore une fois, c'est plutôt du bel artisanat, et si vous aimez ce type de prod, vous en aurez pour votre argent. Mais hélas, ce sont des films qui se croient très critiques du capitalisme, alors que ce sont juste des films qui se plaignent que les billets sentent un peu le cul.
Hop, 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 on ne lâche pas la rampe. Deuxième vite fait mal fait avec La Tresse de Laetitia Colombani. Et c'est Simon qui s'y colle.
Et c'est reparti. Attention, mesdames et messieurs, c'est bientôt Noël. C'est l'heure du mélo de Noël. Attention, attention, aurez-vous des flocons, des bonnets de Noël, des petits rennes, des enfants qui pleurent, des parents divorcés qui retrouvent des gens à qui rentrent les poils. Suspense, suspense.
C'est long.
Eh bien non. Laetitia Colombani adapte ici son horrible roman, un best-seller lu par des millions d'exemplaires, dont 5 millions de lectrices indiennes, il faut quand même le dire. J'ai décidé que c'était des lectrices, c'est du pur sexisme. Mais vraiment, c'est purement du sexisme, mais je peux pas m'en justifier autrement que comme ça. Voilà. Et bref, donc Laetitia Colombani qui a écrit ce très, 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 très mauvais livre, livre qui a en plus, à côté de ça, a été depuis adapté en BD, en pièce de théâtre. Eh bien, Laetitia Colombani.
Sache que tu vas avec C'est ma mère. Ah bon ? Désolé, maman.
Non, mais j'ai pas aimé, quoi. Mais elle adapte donc elle-même son propre livre au cinéma. Elle s'est plutôt bien démerdée, en fait, à ma grande surprise. Ce qui est très intéressant, et je le dis pas du tout pour... c'est pas du tout une pirouette ironique. Je pense qu'elle est très consciente de pas être la nouvelle Steven Spielberg. Donc, elle va pas essayer de faire du style pour du style. Elle va pas essayer de surjouer ses effets. Au contraire, elle essaye de jouer quelque chose qui est pas du tout tape à l'œil, pas du tout tapageur, voire pas naturaliste, faut pas exagérer, mais en tout cas, très terre-à-terre, très haut niveau de ses personnages. On ne sort pas de grandes musiques larmoyantes, on te filme les personnages toujours à hauteur d'homme, avec une lumière qui, si elle n'est pas naturelle, essaye plutôt d'émuler quelque chose d'assez réaliste, parce qu'on va suivre donc les destins d'une intouchable en Inde, d'une artisane en Italie et d'une avocate d'affaires à Montréal, et voir comment, sans jamais qu'elles se rencontrent ni qu'elles aient conscience de l'existence les unes des autres, leur vie, leur destin sont liés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement assez émouvant, en effet, assez touchant, sans du tout, on va dire, détourner le regard de ce qu'il peut y avoir de terrible, de dur et d'oppressant, parce qu'en fait, certaines d'entre elles sont dépendantes les unes des autres, pas forcément de la manière dont elles penseraient, pas forcément d'une manière qu'on a envie de savoir ou de voir. Et ça, en soi, je trouve que c'est assez réussi. Et enfin, voilà, ce qui fait que le film marche, c'est qu'il refuse un petit peu la pompe des mélos de Noël. Et du coup, on peut y aller sans avoir l'impression de se faire jeter des grosses boules de Noël dans les yeux. Bref, s'il faut sortir Tata, eh ben, c'est très bien, c'est bien, ça l'aérera et c'est plutôt un bon choix.
Et un, et deux, et de trois avec Thanksgiving d'Eli Roth. Simon, tu t'y colles encore, mais je vais t'aider un peu sur celle-là.
Ah,
mais tu commences.
Bah écoute, je prépare la dinde et tu la fourres.
Ça dépend laquelle.
C'est
celle de la fin, non? Bref, non, on peut dire quelque chose d'Eli Roth, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est toujours sale, c'est toujours bien gluant, et là, on peut dire que la liste de courses est remplie, c'est dégueulasse, c'est saignant, c'est gore, et on pourrait même dire que le film commence d'une manière assez surprenante, assez spectaculaire, puisque l'introduction, le pré-générique, se déroule entièrement la veille de Thanksgiving, qui est donc le jeudi d'avant, mais ça tombe un Black Friday, et donc un magasin, un grand magasin, un superstore, doit ouvrir à minuit, et s'ensuit 20 minutes de chaos urbain, d'une brutalité absolument inouïe, et avec un message politique assez sympatoche.
Oui, et c'est assez surprenant parce qu'il faut se rappeler que Thanksgiving, c'est l'adaptation d'une des fausses bandes-annonces qui accompagnait le double feature, la double programmation de Tarantino et Rodriguez, à savoir donc Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Parmi ces fausses bandes-annonces, il y avait Thanksgiving, qui était assez remarquable, qui est une des plus marrantes, une des plus délirantes et une des plus visuellement chiadées aussi. Hein. Il y avait un véritable univers, une volonté d'émuler tous ces petits slashers crado du tout début des années 80, voire la fin des années 70, vraiment les tout premiers. Mais en tout cas, c'était pas des films, on va dire, c'était des films qu'on peut interpréter politiquement et socialement, mais c'était pas des films qui avaient une charge politique consciente, volontaire, très, très, très travaillée. Donc, du coup, commencer ce Thanksgiving par un équivalent américain de ce qu'on a appelé en France les émeutes du Nutella, c'est surprenant, c'est étonnant, c'est relativement radical. Ça nous ramène aux premières heures du cinéma d'Eli Roth. Il faut quand même bien voir que Cabin Fever, il poussait volontairement à fond les potards du slasher. Puis après, dans les deux premiers hostels, merci beaucoup.
De rien.
Dans les deux premiers hostels, il travaillait la question du libéralisme mondialisé d'une manière qui était quand même extrêmement énervée et dont je vois pas beaucoup d'équivalent dans le cinéma populaire américain. J'entends, je parle pas dans le cinéma un peu plus arty, mais dans le cinéma d'horreur grand public, je vois pas bien d'équivalent. Bref. Et puis après, sa carrière, en tout cas pour ce qui est de l'aspect politique, c'est quand même beaucoup calmé.
Voilà. Oh, dans Green Inferno, il y va pas non plus avec le dos de la truelle.
Il y va pas avec le dos de la truelle, il y va pas avec le dos de la cuillère et il se mouche pas du coude, mais on va dire, c'est un peu plus, on a plus sur le registre de la blague. Les 20 premières minutes de Thanksgiving, oui, ou du cinéma, tout à fait. Les 20 premières minutes de Thanksgiving, elles dépotent quand même. Hein, oui, ça y va, ça n'est pas que rigolard, quoi. C'est assez rude. Le petit souci après ça, c'est que voilà, le film est aussi là pour nous rappeler que Eli Roth, c'est aussi un gros branleur. Et donc, il y a une grande partie du film qui est un peu en pilote automatique, relativement paresseuse, très attendue et un peu moche, mais on se marre. Les meurtres sont crado.
Les meurtres sont vraiment crado. Et on peut dire qu'à partir de là, c'est une fois cette scène d'introduction, mais vraiment, hein, qui pourrait presque, d'ailleurs, être un début de Destination Finale. Puisqu'on en parlait hors micro, tout à fait. C'est la Destination Finale, Black Friday, genre massacre Walmart. Le problème, c'est que après ça, ça se passe un an après, et après, on est vraiment sur de la Kevin Williamsonnerie. C'est-à-dire qu'on est sur du Wooden It avec un tueur masqué qui va dessouder un par un des adolescents tous plus débiles les uns que les autres.
Alors on est sur un slasher post-scream, en fait.
Ouais,
on est vraiment sur un slasher de 97.
Sur Mortel Saint-Valentin, genre
pas loin. Ouais,
c'est ce genre-là, ouais.
Avec des characters actors planqués dans les seconds rôles qui sont un peu mieux, et avec, on va dire, avec des meurtres beaucoup plus rigolos. Mais voilà, après...
Les meurtres sont vraiment rigolos.
Ouais.
C'est vraiment la seule chose qu'il faut tirer de ce film, à part la scène d'introduction, c'est que les meurtres sont vraiment rigolos.
Ouais, mais tu vois, du coup, notre bilan, c'est quoi ? C'est 20 premières minutes qui sont très cool, des meurtres rigolos. Pour moi, j'ai la base d'un contrat rempli de slasher.
Oui.
Pas plus que ça, faut pas le survendre. C'est pas le grand retour éclatant d'Eli Ross, c'est pas le film d'horreur de l'année, certainement pas. Mais quand je vois ce qu'un Five Nights at Freddy's faisait, en gros, de ce schéma classique, c'était pas exactement un slasher, mais enfin, quand même, on avait des bébêtes, des gens dans un lieu clos et a priori des meurtres. Bah, mine de rien, je trouve que ce Thanksgiving est beaucoup plus satisfaisant, malgré les grosses faiblesses et les paresses de sa deuxième partie.
Ouais.
Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant.
Voilà, mais nous sommes arrivés déjà d'une. J'ai repris pas mal de sirop pour la toux pendant cet épisode, donc c'est pour ça. Mais nous sommes quand même arrivés au bout du programme et je suis encore en vie. Mais comme d'habitude, il en reste un peu plus et ça n'est pas un glaire qui est tombé sur la nappe. Ce sont des conseils de consommation culturelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vas revenir sur un petit bijou, mais pas tout récent, tout récent, hein, de jeux vidéo PC. En tout cas, moi, j'avais joué sur PC, j'avais adoré ça. Alexis, The Vanishing of Ethan Carter.
Ouais, The Vanishing of Ethan Carter, donc un jeu indépendant développé par The Astronauts, si ma mémoire est bonne. Alors, il est compliqué à résumer, ce jeu-là, parce que c'est vraiment un jeu à ambiance, à atmosphère, un jeu assez contemplatif, relativement court, parce que je crois qu'il faut compter grand maximum une petite dizaine d'heures pour le boucler.
Moins que ça,
peut-être même moins. Moi, je ne suis pas encore arrivé à terme, hein, parce que je mets du temps à faire les jeux vidéo, parce que j'ai pas beaucoup de temps libre. Mais en gros, pour résumer très vite, vous incarnez un détective privé spécialisé dans l'occulte et le paranormal, qui s'appelle Paul Prospero, et qui a été contacté par un jeune garçon qui habite dans une petite bourgade reculée dans le fin fond de la province en Amérique, qui s'appelle donc Ethan Carter. Et quand vous arrivez sur place pour le rencontrer, il a disparu et vous devez retrouver sa trace et comprendre ce qui s'est passé dans cette région, parce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Donc c'est vraiment un jeu d'enquête qui n'est pas du tout intuitif, qui au contraire fait appel à votre curiosité, à votre nécessité d'aller visiter les différents environnements, d'essayer de découvrir potentiellement des scènes de crime ou en tout cas des énigmes à résoudre pour avancer petit à petit dans l'histoire.
Ça fait peur ?
Oui, un peu.
Là, je commence à arriver au moment où je claque un peu des dents. Ouais. Mais le fait est que le jeu vous le dit dès le début, il y a un carton de texte qui vous dit « ce jeu ne vous prendra pas par la main ». C'est le cas, il va falloir être justement un peu curieux pour avancer dedans. Il y a une particularité graphique qui le rend absolument fascinant et j'aurais du mal à l'expliquer techniquement, mais disons juste que les développeurs ont fait en sorte qu'aucun élément de décor, mais même le plus petit détail, la plus petite pierre, ne se répète dans le jeu. Donc vous avez un décor qui est très vaste, c'est une vallée avec des maisons, avec un barrage, un grand lac, etc. Et tout est inédit. C'est-à-dire que vous allez au bout d'un chemin, vous découvrez un décor complètement différent, avec des jeux de lumière extraordinaires. Je vous conseille néanmoins, je ne vous le conseille pas, mais si vous avez la chance d'avoir une bonne config, un PC assez solide, n'hésitez pas à booster un peu le jeu parce qu'il a des effets de rendu très cinématographiques qui sont absolument sublimes. Mais il faut un PC qui soit capable de l'encaisser parce que le jeu est assez gourmand,
il a quasiment 10 ans, il est 2014.
Alors oui, mais il se trouve qu'ils ont, fait une version Redux du jeu avec un nouveau moteur graphique. En l'occurrence, c'est cette version-là à laquelle moi je joue parce qu'elle est disponible sur Steam. Dès que vous achetez le jeu, en fait, vous avez la version Redux gratuite. Et du coup, c'est à cette version-là que je joue. Et cette version-là, elle est très 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 jolie. Du coup, elle est un peu gourmande. Donc voilà, si vous avez envie d'un jeu vidéo qui sort des sentiers battus, un vrai jeu indé qui est très beau, qui est très immersif, qui est un peu flippant et qui est surtout très énigmatique, je vous invite à découvrir The Vanishing of Ethan Carter, donc la disparition d'Ethan Carter en français.
Tout à fait, je plus sois, c'était une très très jolie expérience de jeu narratif à l'époque où tout le monde en sait les travaux de Dontnod que je trouve pas mal. The Vanishing of Ethan Carter était un cran au-dessus. Je pourrais vous dire d'ailleurs en conseil que j'ai joué et que j'ai adoré jouer à Alan Wake 2 sur ma PS5, j'ai trouvé ça vraiment canon, c'est vraiment super. Je pourrais vous le dire.
Et tu l'as pas fait.
Mais non, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps et parce que je suis malade. Mais je pourrais vous le dire. Mais je vais le faire un jour.
Ouais, moi aussi.
Et à ce moment-là, peut-être que je vous le dirai. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, Sophie, tu voulais nous dire un petit mot gentil pour une fois.
Bah oui, je vais insulter personne autour de cette table ni derrière le micro, évidemment. Comme vous savez, je suis la gentillesse incarnée. Et en plus, je suis votre SEM préférée qui a pris le temps de répondre à tous vos messages d'amour. En fait, il y a quelques heures, puisque c'était hier, sont tombés les fameuses top Spotify, à savoir la petite analyse perso de ce que vous avez écouté en podcast, en musique. Et en fait, j'ai fait, vous pouvez le voir, un reel avec la plupart de vos stories. J'ai reçu en vrai plus de 80 messages sur Twitter et sur Instagram où vous nous avez mis dans vos top écoutes. Certains étant dans le 0,05 des top auditeurs, vous êtes vraiment merveilleux. S'il y en a à qui j'ai pas répondu, je vais essayer de le faire, mais j'avoue que tout est arrivé hier. Je vous remercie tous et je pense qu'on vous remercie tous ici de nous soutenir autant. Ça a été une année formidable de recevoir autant de messages et de voir que vous êtes toujours aussi impliqués pour suivre nos bêtises. Et hier, avec ce top Spotify, je crois qu'on a pu le réaliser et voir que vous étiez tous merveilleux à nous envoyer beaucoup de soutien, parce que c'est quand même beaucoup de travail, ce podcast, pour tous ici autour de la table. Et de se sentir soutenu, ça n'a pas de prix. Donc, merci à tous.
C'est tout à fait vrai. Mille merci vraiment à toutes et tous. C'est vraiment extrêmement précieux. Ça nous fait très chaud au cœur. Et puis surtout, restez bien, bien, bien à proximité de votre téléphone et de vos réseaux sociaux, parce que dans quelques jours, enfin, pas trop longtemps, quoi, il y a peut-être une petite annonce,
On a dit pas.
Wow. Oh, t'imites vachement bien le décodeur canal à l'époque de l'analogique.
Bah, comment tu crois que j'ai appris à me masturber? En tout cas, ça va vous faire on va essayer de vous faire frétiller Noël. Allez, ouais. on se retrouve mardi, on fera bien attention aux chaussures. Bye les amis, et gloire au sirop pour la toux.
Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
Au quatrième stop, il sera exactement 0h13.
Oh la vache, moi je vais être en retard au lycée.
Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi, je dois.
Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en.
Arrivederci, un buon viaggio.
Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.